Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Amis auditeurs, bonjour, c'est le podcast du Supplément Week-end, l'épisode du 28 mars 2009 n'a pas commencé comme ça, du moins pas en direct. Là, bonjour, c'est Daskritch, le producteur et le réalisateur de cette émission. On a eu des problèmes à l'enregistrement dans le studio de Radio FMR. L'émission a été diffusée en direct sans aucun problème, mais il se trouve que nous n'avons pas pu récupérer les 5 premières minutes de l'enregistrement, une émission qui était assez riche, avec une thématique John Woo. Thomas attendait de la faire depuis 5 ans, donc enfin il fait une chronique là-dessus, mais surtout une interview d'un premier auteur absolument talentueux qui s'appelle Thierry Plus. Le problème, c'est que l'enregistrement ne débute qu'en plein milieu de cette interview. Nous allons donc faire un remontage un petit peu particulier, puisque en fait vous allez entendre le son brut de l'interview, et en plein milieu vous allez reprendre, je vais dire, l'émission telle qu'elle a été réalisée en direct, pour ensuite avoir le cours normal de l'émission du Supplément Week-end. C'est un problème technique qu'on a dû essayer de résoudre avec le staff permanent et bénévole de Radio FMR. On espère en venir à bout. Pour l'instant, on ne sait pas si d'autres émissions ne seront pas impactées d'ici que l'on y sera. En attendant, on va peut-être parler de Thierry Plus. Thierry Plus est un jeune auteur. Son premier bouquin donc s'appelle Dog et moi, est sorti dans la collection Bayou chez Gallimard. C'est une interview qui a été enregistrée le samedi précédent de cette émission, le samedi 21 mars, à l'occasion de sa venue à la librairie Gilbert Joseph à Toulouse. C'est un premier bouquin qui est un one-shot, c'est-à-dire une histoire complète en un seul album. C'est l'histoire de Jonas. Jonas est un trentenaire un peu désabusé qui un jour trouve sous un siège de cinéma un sac de sport rempli à ras-bord de très gros bifetons. 4 millions en liquide. Oh, Jonas est un cave. Il n'a rien à voir avec le milieu. La première chose d'illégal qu'il va faire, c'est d'abandonner sa femme à Paris, direction la Pampa, dans l'Amérique du Sud. Il paraît que son père aussi s'est barré là-bas, dans ce joyeux et riant pays où on parle espagnol. À sa naissance, finalement, c'est un peu comme les saumons. À l'instinct, Jonas fait comme ses parents. Et c'est là que commence le drame. Jonas, il connaît rien à la criminalité organisée. Il connaît rien à la cavale. Il connaît rien à l'Amérique du Sud. Il connaît rien à la manière d'envoyer paître sa femme. Il connaît rien à la manière d'utiliser son pognon. Et il connaît rien à échapper à un mec un peu trop collant. Genre Dog. Un gars largement plus expérimenté qui colle vraiment aux fesses. Il veut quoi ? Récupérer l'argent, le buter, ou lui apprendre les bonnes manières ? La grande aventure avec un sac de bifton, le tout en technicolor et en vieille dame américaine. Une histoire complète, haute en couleurs, assez marrante, avec une bonne maîtrise pour un premier album. Thierry Plus n'a pas cité Audiard, comme j'ai tenté vainement de le faire dans cette chronique, mais la filiation est évidente. Il manquerait plus que Florent Pagny en dégâts collatéral et on serait ravis. Dog et moi, donc, c'est une histoire complète de Thierry Plus dans la collection Bayou, collection Gallimard. Et donc, nous l'avions rencontré le samedi 21 mars à la librairie Gilbert Joseph. Et vous allez voir, donc en plein milieu de l'interview, vous allez reprendre la suite, le cours normal du Supplément Week-end. Merci à vous, encore 1000 excuses pour ces problèmes et bonne écoute. Thierry Plus, bonjour.
Bonjour.
Ton premier bouquin s'appelle Dog et moi. Comment le qualifier ? Est-ce que finalement c'est un road movie décontracté ou est-ce que c'est un polar picaresque ?
Non, c'est un road movie décontracté délibérément.
L'histoire, c'est celle d'un type qui découvre dans un cinéma par hasard 4 millions d'euros planqués sous un siège et qui s'enfuit. Alors, à partir de quelle somme on se dit c'est forcément illégal de trouver de l'argent comme ça et qu'il vaut mieux s'expatrier ?
Alors déjà, il n'est pas dit que c'est en euros.
Les billets sont
verts. Non, ça pourrait être des dollars.
Enfin... Non, le billet de $500 n'existe pas.
Bah, d'accord. Ok, ça commence bien. Ça, dans le fond, ça n'a pas vraiment d'importance. Peu importe la somme d'argent, la quantité. Bon, il faut que la somme soit suffisamment conséquente quand même pour créer une intrigue, parce que à 10 euros, personne ne quitte ni sa famille, ni sa maison.
Mais... Ça ferait une intrigue à 10 balles.
Ça ferait une intrigue à 10 euros. Non, c'est pas fondamental. Le moteur de l'histoire, c'était de faire en sorte que mon personnage s'échappe de sa réalité, sa vie de tous les jours. Donc il fallait évidemment qu'il y ait une histoire d'argent, mais il y a pas que ça. C'est pas le seul moteur de sa motivation. Il a d'autres problèmes, d'autres soucis et une espèce de crise identitaire aussi qui va l'amener à parcourir le monde du côté de l'Amérique du Sud.
On s'attend à tout moment à avoir un flashback vis-à-vis de ce qui s'est passé et comment il s'est retrouvé en Amérique du Sud, puisque c'est là où commence le cadre, hein, dans un pays qui n'est pas nommé, pour des raisons bien évidemment de confidentialité. Alors, ce flashback n'arrive jamais dans la lecture du bouquin. Il n'y a jamais l'explication sur comment Jonas, le héros, le protagoniste de l'histoire, se retrouver dans une telle situation. C'était un choix de l'éviter parce que c'était finalement un ressort littéraire beaucoup trop facile.
Non, c'est pas un choix. Enfin, c'est un choix dans la mesure où je l'ai pensé, je l'ai même envisagé, j'avais même commencé à l'écrire. Pas la question du flashback, hein, mais de commencer l'histoire en amont. C'est-à-dire commencer à la situer sur comment il trouve l'argent, dans quelles conditions et quel est son contexte, de quelle façon il vit. Bon, mais quand vous avez 100 pages pour écrire un récit et que vous avez des choses à raconter, il y a forcément des choses que vous devez laisser de côté et faire des choix sur le scénario en vous disant ça, je le mets de côté. Et j'élude et à la limite, c'est pas plus mal parce qu'on n'est pas obligé de tout dire. Il y a des choses qui sont sous-tendues derrière le récit sur lesquelles vous pouvez revenir, appuyer de temps en temps, de façon... On n'est pas obligé de tout dire, en fait. Surtout que l'histoire est pas vraiment là. Elle est dans ce qui se passe après.
C'est très bien, c'est flatteur pour le lecteur de dire qu'on joue avec son intelligence. Pourquoi l'Amérique du Sud, finalement? Pourquoi pas l'Afrique, l'Asie, ou finalement l'Europe de l'Ouest, de l'Est, pardon?
L'Amérique du Sud, j'y suis jamais allé. C'est un continent qui me fait fantasmer. Déjà, c'est le continent américain, donc il y a quand même une dimension pour ancrer un road movie. On est déjà dans des codes qu'on connaît au niveau qu'on a vu et revu dans le cinéma américain. Il y a Thelma et Louise, il y a les grandes routes, les déserts. Même si là, je suis en Amérique du Sud, il y a ça. Et puis ensuite, il y a la dimension un petit peu le côté je me casse au Paraguay. C'est un peu le lieu tout indiqué pour une fuite.
Que l'on soit ancien nazi ou chanteur français faisant une évasion fiscale du coup.
Oui. Oui, peu importe. Et puis bon, à la limite, quand on se casse avec un sac de fric et qu'on doit partir, vaut mieux aller là qu'en Sibérie.
Tu as dit que tu n'étais pas allé en Amérique du Sud. Alors, est-ce que tu as travaillé d'après des photos ou tu t'es dit, je vais imaginer, je vais construire ça comme ça, d'après complètement tel que je me l'imagine, tu t'es construit en ton univers à toi?
Les deux, très précisément, parce que d'abord je voulais pas situer de pays en particulier, parce que je voulais pas. Ça tourne.
Te retrouver à interdit, persona non grata, ce serait un peu con pour les vacances.
Voilà, non mais. Disons que je voulais me détacher de toute contingence ou de tout côté documentaire en fait, hein, sur un pays. Ça tourne, les décors tournent principalement autour du Pérou, mais je prends des libertés avec des routes qui pourraient être mexicaines, avec des villes qui sont plutôt cubaines. Donc ça, c'est pour moi, c'est un confort de pas être restreint et contraint dans un cadre documentaire. Et ensuite, c'était quoi la question? J'ai déjà oublié le début. Je sais plus ce que j'allais vous dire.
C'était pour les anciens dignitaires nazis, voilà. De la chanson française.
Ensuite, si j'avais dit c'est au Pérou et que le petit groupe de Péruviens qui joue sur la place du Capitole, je ne sais pas s'il y en a, ils auraient pu venir se plaindre, dire que c'était une vision très caricaturale du Pérou avec un futur dictateur et des flics pourris en me disant mais attendez, chez nous il n'y a pas que des flics pourris. Donc là, personne ne peut venir m'embêter sur ce point.
Dog et moi est ton premier album. Il dénote quand même déjà d'une certaine maîtrise. Quel a été ton parcours avant de te lancer dans cette carrière d'auteur?
Bon, j'ai un cursus universitaire assez classique pour un dessinateur, parce que j'ai parcouru pas mal d'écoles d'art en France. Pau, les Beaux-Arts à Lyon, les Arts décoratifs à Strasbourg. Et ensuite, suite à ça, je me suis spécialisé dans le graphisme, j'étais plutôt affichiste. et je me suis intéressé à la typographie. Donc on a des références de temps en temps sur des panneaux publicitaires et ce genre de choses qui sont intéressantes, parce que, enfin, pour moi c'est intéressant parce qu'on peut pas situer un pays sans situer le contexte graphique qui va qui va avec. Donc ça me renvoie à mon métier de graphiste. Je suis toujours graphiste, hein. Ça fait que, en fait, avant de faire ce livre, ça faisait une dizaine d'années que je suis graphiste et je dessinais pas. Je ne me considérais absolument pas comme un auteur de bande dessinée. Et je suis arrivé là un petit peu par hasard, de retour de voyage, sans projet, me demander ce que j'allais faire. Et on m'a offert un livre qui s'appelle La goutte d'eau qui fait déborder le Bayou, sans aucun rapport avec ma maison d'édition qui est Bayou. C'est une coïncidence. C'est un ancien des arts décoratifs de Strasbourg qui a signé le scénario. Et donc, quand on voit passer les noms comme ça d'anciens amis en se disant ils se sont jetés à l'eau, ils ont sorti un bouquin, ça titille un peu et je me suis dit ouais, je peux faire au moins aussi bien. Voilà, je me suis pas dit que j'allais faire une grande œuvre ou une grande BD, mais je me suis dit j'ai rien à faire en ce moment, banco, j'y vais. C'était pas ma première tentative, hein. J'avais déjà essayé quand j'étais étudiant, mais en règle générale je passais pas la page 4 parce que j'écrivais pas de scénario.
Là justement, sur le scénario, tu as dit tout à l'heure que tu étais contraint dans les 100 pages. À mon avis, je pense que c'était limité par le directeur de collection. Comment tu as écrit ça? Tu t'es dit en plein milieu, j'ai envie de rajouter ici une péripétie et je vais l'écrire, ou tout était déjà rédigé, scripté avant que tu commences à faire ton gaufrier?
Tout était écrit. L'histoire, les personnages et les dialogues en amont du dessin. Avant de prendre un crayon, je voulais tout écrire. Comme ça, je savais à peu près où j'allais. Mais il se trouve que quand j'ai commencé à réaliser, en fait, j'ai tout réécrit. Pour plusieurs raisons. La première, ça a été que les éditeurs font pas confiance comme ça à un auteur débutant. Donc il faut montrer de la matière, il faut montrer un livre, il faut montrer de la lecture. Même si évidemment c'est pas finalisé, c'est pas réalisé, mais il faut que ça soit lisible. Et donc je l'ai scénarisé en 48 planches pour Vent d'Ouest, qui finalement a dit non. Et quand j'ai rencontré donc l'équipe de Bayou, eux m'ont dit mais nous on est sur un format autour des 100 pages, ça nous intéresse. J'ai dit pas de problème, je vais le faire en 100 pages. Donc mon récit, en fait, il était écrit, mais c'est un outil de travail, donc vraiment malléable, où tous les textes ont été écrits, réécrits plusieurs fois, les fins changées, j'avais une dizaine de fins, et donc ensuite on pioche en fonction des humeurs. Et puis les années sont passées, parce que j'ai quand même mis 4 ans et demi entre le jour où j'ai attaqué et le jour où il a été publié, donc vous avez le temps de vous lasser sur votre propre histoire en 4 ans et demi, c'est sans doute le plus dur. Donc voilà, forcément ça évolue et forcément ça y réécrit.
Du texte au dessin, c'est une couleur directe qui est assez dense, sur lequel il y a quand même un travail de texture, sur lequel il y a des couleurs qui sont assez chaudes. On va des plaines désertiques, on passe par la jungle, il y a le ciel d'une beauté, d'une clarté, d'une pureté, je vais dire. Quelle est la technique que tu as employée pour cet album?
Alors justement, c'est pas de la couleur directe. Ça peut être surprenant, mais ça c'était le seul truc dont j'étais sûr, c'était la technique, la façon dont j'allais procéder. Habituellement, donc c'est de l'acrylique, hein, c'est de la peinture, habituellement je fais en couleur directement. Là j'avoue que j'ai eu un peu peur de me lancer là-dessus, 100 pages pour un coup d'essai, donc j'ai développé une technique en fait où je peins en noir et blanc. Et ensuite je colorise de façon numérique, un peu comme on peut le faire pour quand on colorise les films anciens.
Tu teintes en fait?
Je teinte. Donc ça donne une texture particulière, ça me permet de conserver la texture de la peinture, du pinceau. J'évite d'avoir des originaux qui sont grand format. Je suis assez proche du format définitif, ce qui fait qu'on a les défauts, les accros et les petits pets liés à la matière, à la peinture qui transparaissent dans les planches. Voilà la technique. Bon, maintenant, la technique va évoluer là sur mon prochain projet, parce que ça m'a pris énormément de temps d'avoir à recommencer 3 fois la même page.
Ben justement, à propos de tes prochains projets, est-ce que tu as plutôt envie de continuer dans le one shoot, lancer dans une série ou relancer le personnage de cette histoire?
Non, ça sera un one shot. C'est signé. Ça sera aussi chez Gallimard. Ça n'est pas une suite. Ça sera, mais par contre, ça sera encore un récit de voyage avec une aventure. Mais bon, c'est pas délibéré de ma part. J'ai quand même posé la question à mon éditeur de savoir si je pouvais développer un récit sur plusieurs tomes. Ils me l'ont déconseillé en me disant, écoute Thierry, si ce livre-là marche pas, que ton deuxième marche moyennement et que on fait trois livres ensemble et que tu te sens obligé de faire un deuxième tome parce qu'évidemment t'en as déjà fait un, on pourra pas se retourner sur autre chose. Donc le conseil de mon éditeur, ça a clairement été de faire un one shot, donc de rester sur un récit. Bon, il me file 100 pages quand même, entre 80 et 120, donc j'ai de la marge, hein. Mais ça permet de changer complètement et d'essayer de concurrencer Titeuf sur le troisième si le prochain marche pas.
Zep, tiens-toi tes culottes. Thierry Plus, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Thierry Plus, donc, pour l'album Dog et moi qui est sorti dans la collection Bayou chez Gaillimard, et c'était donc enregistré la semaine dernière à la librairie J.Hibert Joseph lors de son passage à Toulouse. Un bouquin que je vous conseille, donc Thomas, tu verras justement cette technique très particulière de dessin, et comme tu as pu l'entendre durant l'interview. Non, ne me dis pas que t'as pas écouté l'interview.
Si.
Non, parce que tout à l'heure, on va t'écouter religieusement quand même pour ton dossier spécial sur le spécialiste du film de Taekwondo. Hein ? On va pas le louper celui-là.
Mais non, pas Taekwondo, c'est coréen ça.
Oui, John Woo, il est. Je croyais qu'il était hongkongais. Non, d'accord, ok. Enfin bon, on va continuer dans les sorties bande dessinée de suite dans le supplément week-end en attendant et. Avec. Complètement autre chose. Une bande dessinée de guerre, bien évidemment, avec Betancourt au scénario et Inbo dessin, Sergent Mastoc. Le tome 2 s'appelle Les griffes de l'hydre jaune et vient de sortir dans la chez Bambou, excusez-moi, voilà, je vais y arriver. Ouais, non, parce que c'est pas évident en même temps de préparer la suite et les interviews les fonds sonores suivants. Sergent Mastoc, et ben donc c'est le fameux commandant de la section Z dont on avait beaucoup rigolé, la Seconde Guerre mondiale, le Pacifique, l'enfer vert par les jaunes dans le grand bleu avec des roues, car il est souvent question d'Irlandais du Nord là-dedans. La section Z du sergent Mastoc semblait attirer sur elle tous les malheurs de cette putain de guerre du Pacifique. Peut-être à cause de Jim, l'Irlandais rouquin, exactement le genre de race qui porte poisse. Mais aujourd'hui, excusez-moi, j'ai utilisé le mot race, hein, je voudrais m'en excuser. Peut-être, mais aujourd'hui, la section Z va tenter un grand coup, libérer un camp de prisonniers. Un camp bien particulier qui n'a que des Irlandais roux, traité avec la pire des barbaries et des cruautés par les Japs. Piscine, club de sport, infirmière, voilà qui doit cacher quelque chose. Les rumeurs seraient-elles vraies ? Les Japonais préparent-ils vraiment une arme absolue à base d'Irlandais roux ? C'est carrément dans le nonsense, un croisement entre Les Têtes Brûlées et MASH, c'est présenté comme un pulp, ce qui donne vraiment une bonne fraîcheur à ce format d'album, qui est un 48 planches couleur cartonnée, mais en histoire complète. Sergent Mastoc, le tome 2 s'appelle Les Griffes de l'Hydre Jaune, c'est chez Bambou, c'est vraiment poilant, c'est un moment, je vais dire, ça irait tout aussi bien dans Flic Glacial, sauf que voilà, c'est chez Bambou, c'est de Betancourt et Nebo, et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment... une bonne tranche de rire. Avec de l'aventure et des morceaux de bravoure dedans, quand même. Complètement autre chose, cette fois-ci sur la guerre, d'un côté, d'un ton beaucoup, beaucoup, beaucoup moins marrant. Il s'agit de DMZ, scénario de Brian Wood, et dessiné par l'italien Riccardo Borchielli, qu'on a eu en interview dans cette émission l'an dernier. DMZ, le tome 4, s'appelle Tirami, et il est sorti dans la collection Vertigo chez Panini Comics depuis déjà plus d'un mois et demi. Je suis désolé d'ailleurs de ce retard, mais voilà. Il fallait vraiment prendre le temps de le lire. Je rappelle donc que dans cette histoire, les auteurs continuent leur destruction systématique des États-Unis. Une deuxième guerre civile qui a démarré on ne sait comment, et avec deux armées, une armée officielle, celle des États-Unis, et celle des FSA, qui est une armée complètement informelle, finalement, puisqu'il n'y a pas de FSA. Mais ça n'est qu'une idée, ça n'est qu'un concept. Matty Roth est toujours le seul journaliste à vivre au sein de la DMZ, la zone démilitarisée, c'est-à-dire entre les deux belligérants, dans Manhattan, dans New York ruiné, dans une ville déchirée, a envoyé au monde entier des témoignages sur les soi-disant francs-tireurs qui ne sont en fait que des civils pris au piège de cette guerre. Erhoff envoie toujours ses témoignages soit à Liberty News, la chaîne officielle des États-Unis, au point qu'elle est confondue avec le gouvernement, soit à IWN, qui ne prend pas part au conflit et qui a justement une réelle neutralité. Les FSA n'étant pas structurés n'ont toujours pas de médias ni de propagande. À moins que justement. C'est le procès du jour 204 que doit couvrir Roth, celui d'un massacre qui a définitivement décrédibilisé l'armée américaine auprès de sa propre opinion. Ce que l'on appelle pudiquement des tirs amis, friendly fires, dans les commandements, ce que les soldats appellent un foirage, ce que les familles appellent un massacre d'innocents. Ce jour 204, une patrouille des États-Unis dans le downtown de New York est à bout de nerfs. Ils reviennent d'Irak ou d'Afghanistan, rappelés en catastrophe, et découvrent leur propre pays déchiré. Ils se retrouvent en fait attirés face à ce qui pourrait bien être leur voisin. Les opposants du FSA n'ont pas d'uniforme, ressemblent à n'importe quel civil et donc peuvent leur tomber dessus à n'importe quelle occasion. Il n'y a pas de barrière de langue, il n'y a pas de barrière de culture. Il y a juste la barrière de l'uniforme. Une foule passe devant la patrouille. Une foule anonyme, silencieuse, flippante. Un mouvement mal compris et... Et c'est un tir nourri sur plus de 200 civils qui pourtant manifestaient pacifiquement pour l'arrêt des hostilités. Des tirs amis, c'est ça. Peu importe l'origine des balles, ce sont quand même des morts et des blessés. Mais les dégâts sont mille fois pires pour le moral des civils et des militaires de terrain. Ceux qui découvrent qu'ils ne sont pas forcément les gentils, et la population qui doit se méfier d'autant plus de l'armée censée les protéger. Roth, donc, couvre le procès de ce foirage. Un tribunal militaire, ce qui veut dire des droits réduits pour la défense, une couverture médiatique minimale pour ne pas trop impliquer le commandement. Mais quand même un journaliste, celui qui, à défaut d'être impartial, est devenu le témoin de la réalité de ces guerres de sécession et qui raconte les faits. Point. Le travail de journaliste, en fait. Roth donc couvre ce procès et il se demande... Et il commence à se poser la question, en interviewant le caporal Stevens, si celui-ci n'est pas un bouc émissaire, non seulement d'un système, mais aussi de ses propres camarades. Le petit jeune du Dakota qui est entré dans l'armée pour payer ses études, se retrouver ensuite en Irak et revenu à New York, a-t-il été suffisamment préparé pour répondre à ce genre de situation? Alors que s'est-il passé? Il y avait-il vraiment des combattants armés cachés au milieu de cette manif? Encore une fois, Brian Wood et Riccardo Burchielli analysent les horreurs de la guerre sur les civils, les effets de la propagande et les réalités vécues par les humains, aussi bien soldats que civils. La tension permanente qui fait que tout peut déraper, quand le point de rupture du plus insignifiant élément fait s'effondrer tout un édifice. DMZ est une œuvre majeure, l'héritage de l'ère Bush, il est toujours urgent de le lire. DMZ est scénarisé par Brian Wood, dessiné par Riccardo Burchielli. Le quatrième tome donc s'appelle Tirami et vient de sortir, est sorti depuis plus d'un mois chez Vertigo, édité par Panini Comics. Thomas, toi tu l'as lu de ton côté?
Non, pas ce tome-là, j'ai lu les deux premiers. J'ai acheté les suites, je crois que j'ai acheté les suites, mais le 3 et le 4, je les ai pas encore lus.
Toi, oui, comme moi, en fait, tu prends ton temps là-dessus parce que c'est vrai que c'est une œuvre assez dense, assez lourde, graphiquement très bien amenée. Chaque histoire tombe juste et fait extrêmement mal.
Oui, c'est pas une BD à lire en diagonale en faisant autre chose, en faisant la cuisine. C'est le truc.
Je dis pas ça des bouquins que j'ai chroniqués auparavant, attention. Et je veux dire qu'il faut bien une bonne heure pour le lire dans les moindres détails. Enfin bon. Midi 24 sur la poubelle des radios, c'est le supplément week-end sur Radio FMR. Nous sommes donc le samedi 28 mars 2009. La semaine prochaine, c'est une spéciale mangas.
À mangas.
Attention, avec un très gros dossier exclusivement consacré à Dragon Ball. On en reparlera tout à l'heure, puisque il y a le film, mais il y a aussi donc le reboot de la franchise qui va arriver au Japon. Donc c'est le 9 avril. Ça s'appelle Dragon Ball Kai.
Kai.
Où ils ont repris tous les dessins animés, sauf que cette fois-ci ils ont expurgé tout ce qui était propre aux dessins animés. Ils suivent le manga.
Ce qui est pas plus mal d'ailleurs.
Et on est loin du stop motion puisque c'est réalisé en HD avec vraiment des mouvements souples et tout. Les premières images, enfin surtout les bandes annonces sont impressionnantes. Donc ça, on en reparlera.
Il faudra mettre le lien sur le site de l'émission.
Oui. En attendant.
Je dis ça parce
pour
que j'ai pas
faire
vu
la suite de DMZ, Tirami, un morceau de Herbalizer Generals. C'est l'album Take London avec Trap Clappa, Chish Marina, Davy Mills, A.K., MacGyver et Jane Grey.
R.I.P. Big Pun, get your shit from back to next week, stash you in your pimp cup, only ashes full, trap rabbit, smash you down the log files, fuck your girl with my Christmas yule, general number one, give a head of our machetes, I cover for fun, ready girl, I punch your lungs, 8:30 morning crooked, you ain't worthy, fuck Kelly, keep my video camera sturdy, dark bitches from the Cape Verde on it, clapping on rape girlies contracts, they sign their name on them, fillet them well, slay so well, they be beefing every week and I don't answer myself. Cause they creepin', they freakin', yo, they man don't know. Be like trap kick his ass, I be like hell oh no. I don't fight for no bitch, nigga, fight for self. Mighty Thor fist will split your heart from your shelf. Ah, Jennifer Bomb, you're off your marker. Those ain't trucks, those are made by Tonka. My ride couldn't park on yours. I'll stomp you right to the parking lot floor. Cause you're some
bitches, I ain't scared. Your name's Miss Stanford. I can flip on slang, the word phrase sampler. Only when I sing I'm the Boston Strangler. I can turn into the perfect picture of anger. Mean town broad, I be that girl that smokes trees out of bones and sits feet with her mom and just leave me alone or get pee peed on. Cheeks Marina, the anti-goose make her face beat her white chick, three shades paler than most of my people. Write my own shit, you can't say that either, bitch. I'm not Eminem, you'll find an emblem over your tombstone of my face if you mention him. And how the gotta pop my car, not far from where I learned that I could shit on these bars and cantankerous words could dribble out of my lips. You won't accept me, but I bet you take this unused clip. Bitch, alright, alright, left, trap left, 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 take it down, general, around the street, let's go.
Ballering a nigga, you best to pick it up. I got a trillion tricks, I'm finna get them drunk. And what you got in your stable, I bet they don't call. Like they crawl in the daddy mills, I'm off the wall. Fuck a rim punk, and who you fucking with? I get a crumb and then you drunk, uncle suck a fifth. I shoot a rib off you, I'm no drug dealer. I'm a pimp and you can tell by how a dumb beat a general.
Hangman's trying to get me, hand me up, so I can't get sleep. I've been a case in the hand of the law, since my grace fell from the hand of the law. I'm sorry, mama, I know I sin right. She ain't complaining, the tiger spin light. Tiger plans, the shine's tremendous. She ain't never gonna say, hey, hey, please end this, it's endless.
Yeah, 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 teaches apples from the rotten apple. I'm an eighth grade nightmare, like I care, right? Yeah, Gino, be right there. Yeah.
You little dummies running scared than Gregory Hines. Yeah, prepare to be leveled by enemy minds. I get blinded by your bullshit slanging. I'm in the pulpit saying prayer while I'm banging Duran's Duran. Only you can't hang with generals, can't hang with veterans. Even MacGyver is lying to you. Yeah. If I were you, but then what I do? I don't know. I would probably duck and hide from people, try to end my life, man, get through.
Come on.
Generals par The Herbalizer avec Trap Clappa, Chish Marina, Davy Mills, A.K., MacGyver et Gene Green sur l'album Take London. Et pas de pause publicitaire, alors qu'il est 12h30 exactement, tout simplement parce qu'on n'a pas de pub prête, voilà. Et puis voilà, heureusement maintenant de suite c'est la partie cinéma, alors ça tombe bien, il a été spécialement conçu pour ça, et spécialement calibré pour ça, c'est un jingle de qualité hein, qu'on est fier et qu'on a piqué au groupe Kung Fu,
ah.
C'était une bande-annonce vidéo d'ailleurs.
Kung Fu Fighting.
Non, c'est non. Des...
Ah,
non,
c'est
non.
L'autre, oui, d'accord.
C'est Kung Fu, F-O-U.
D'ailleurs, kungfou.com, c'est la bande-annonce d'une de leurs vidéos amateurs, autoparodiques justement. Rien que pour le plaisir. Enfin, ça fait 5 ans, Thomas, qu'il s'est rendu compte
mon frein.
Qu'il n'a pas fait donc la bio de ce fantastique réalisateur qui est John Woo, qui est vraiment la base pour nous, dont nous avons vu et bu tous ses films, qui est un grand spécialiste du Viet Vo Dao.
Non.
C'est du Krav Maga.
Non plus.
Non, de la capoeira.
Non plus.
Ça va de française.
Non.
Mais putain, mais l'autre jour dans NPA, dans le Grand Journal, il parlait de.
Oui,
il faisait des arts martiaux.
Ouais, il disait qu'il faisait des arts martiaux, mais il faut pas écouter tout ce qui se dit à la télé, Xavier.
Non. Attends, tu veux dire que le mec qui a dit ça, il est chroniqueur à Télérama?
Peut-être, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ce n'était pas complètement faux. alors on va parler effectivement de John Woo. Oui, puisque bizarrement on n'a jamais parlé de lui à l'antenne, puisqu'il faut dire que depuis Paycheck il avait rien fait, alors qu'on avait parlé plusieurs fois de Cronenberg, de Masamune Shiro, nos chouchous, hein, Kitano, Mamoru Oshii,
Carpenter,
Alan Moore, Frank Miller, et voilà, et il est resté John Woo en fait, même s'il y en a d'autres bien sûr. Alors j'ai pas noté son nom mandarin, parce que ça aurait été rigolo, hein, mais non en fait. Alors John Woo est né à Guangzhou en Chine en 1946 et il émigre assez rapidement à Hong Kong, il a 7 ans. Et bon, à Hong Kong qu'il quittera pour rejoindre Hollywood en fin 1992 et qu'il donc là il est revenu cette fois en Chine populaire pour tourner Les Trois Royaumes dont on parlera tout à l'heure. Alors ces films, on peut déjà dégager les films emblématiques qu'il a fait dans sa période hongkongaise, hein, puisque c'est dès 86 qu'il réalise Le Syndicat du Crime, hein, produit par un jeune chien fou qui voulait révolutionner le cinéma hongkongais, qui a donné lieu à l'âge d'argent hongkongais, c'est Tsui Hark avec la Film Workshop. Donc Le Syndicat du Crime a tout cassé, hein. Ça a créé un genre à part entière, le heroic bloodshed, qui est la glorification, pour schématiser et insister aussi sur le côté un peu négatif de ça, c'est glorification des gangsters avec, où ils flinguent tout ce qui bouge, tout ça au ralenti bien sûr. Ensuite il a fait Le Syndicat du Crime 2, qui était au dire de Laurent Elbé, que nous aimons bien ici, une boursouflure, hein, qui vaut surtout pour, alors bon, les rumeurs disent que John Woo n'aurait pas eu les coups des franges sur ce film et qu'il aurait remis sa patte sur Le Dernier Quart d'Heure. Il faut savoir que Le Dernier Quart d'Heure est la boucherie la plus sauvage en gunfight, hein, qui nous était donnée depuis La Horde Sauvage de Peckinpah, hein, on va dire. Et c'est après, avec son film suivant, qu'il est surtout connu en Occident, c'est The Killer, qui arrive qui est sorti en 1989, qui est sorti bien plus tard chez nous.
Pas beaucoup plus, hein.
Oui, mais qui a été aussi connu ensuite avec
la distribution vidéo.
Distribution
de
vidéo,
HK.
Ouais.
Non, mais moi je l'ai vu en salle ici à Toulouse.
Ah oui. Et c'était en quelle année? C'était juste après.
Ouais, dans les années début des années 90. Hein, vraiment,
d'accord.
Quoi. Non, vraiment, ça a été étonnant, quoi. D'ailleurs, de voir, de pouvoir voir ce film dans une salle à Toulouse. Hein. Vraiment, c'était hors festival, hors
vraie sortie.
Thématique. C'était vraiment, moi, voilà, The Killer, John Woo, point.
D'accord. Donc The Killer, c'est...
En version originale, bien sûr.
Oui. Avec Sean Fat et Danny Lee. Et donc c'est le film qu'il a fait mondialement connaître, qui lui a valu les admirations de Martin Scorsese, Quentin Tarantino et consorts. Hein. Ensuite, il enchaîne avec, en 90, l'année suivante, Une balle dans la tête, qui est considéré comme son film le plus personnel et le plus obsessionnel, où il développe ses thématiques dans un film qu'on pourrait qualifier de The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer chinois. Hein.
Oui, tout à fait. Hein.
avec ces fameuses séquences de roulette russe également. Il faut savoir que c'était brouillé à l'époque avec Sawyer qui avait réalisé le troisième volet de Better Tomorrow, donc le syndicat du crime qui se passait aussi au Vietnam. Il faut savoir que Sawyer est né au Vietnam et John Woo était parti tourner sa version officieuse avec une balle dans la tête, même si on ne retrouve pas tout à fait les personnages. Il y a Tony Leung Chiu Wai qui était dans la première collaboration avec John Woo. Il y avait aussi Wesley qui jouait l'enculé dans le syndicat du crime, où il y avait des sacrés acteurs, et il finit sa période hongkongaise avec deux films assez en l'un de l'autre. Alors le premier, c'est Les Apprentis, donc Wong Soo Tief, qui est considéré par les Hongkongais comme leur avec le syndicat du crime comme leur film préféré de John Woo, alors que bizarrement c'est quand même un film assez mauvais, on va dire. C'est une grosse comédie pour le nouvel an chinois avec Chow Yun-fat et Leslie Cheung avec un triangle amoureux, voilà. Et la même année sort À Toute Épreuve, donc son monumental testament, puisqu'il avait annoncé qu'il allait aller à Hollywood, et puis il fait son film d'adieu à la colonie britannique avec donc Anthony Wong, Chow Yun-fat, Tony Leung Chiu Wai, voilà, monumental, avec Chow Yun-fat qui tient un flingue dans une main et un bébé dans l'autre. Et alors ça, c'est sa période hongkongaise, mais il faut pas oublier que John Woo avait commencé dans le film de costume de Wu Chapan, hein, le film de sabre, film d'arts martiaux, dont on peut dégager certains films. C'était dans sa période, il avait commencé quelques années avant comme assistant de Chang Che sur La Rage du Tigre, et il y a pas mal de films qui sont assez connus qu'il a fait dans cette période-là pour les aficionados. Donc il y a Princess Changping de 75, End of Death de 76, et La Dernière Chevalerie qui date de 78. Et il faut savoir que John Woo était un peu considéré comme un faiseur, mais sans grande originalité, sans grand univers, qui avait à un moment donné songé à arrêter le cinéma, puisque il faut dire qu'il avait caressé deux rêves dans sa vie, c'était aussi de devenir prêtre catholique. Et donc c'est justement grâce à Sawyer qu'il a pu se refaire une santé et puis connaître la carrière qu'on connaît aujourd'hui. Alors il est allé en Hollywood en 92, donc c'est pour faire en 93 Chasse à l'homme, hein, le direct to vidéo de luxe avec Jean-Claude.
Oui, Jean-Claude.
Voilà, avec Jean-Claude des cheveux longs frisés, qui doit avec cette couverture avec la flèche, avec Jean-Claude dans la flèche, avec Lance Henriksen également et Arnold Vosloo qui a après tourné la momie. Voilà. Il enchaîna avec Broken Arrow 3 ans plus tard avec Christian Slater et John Travolta avec un enlevage de bombes nucléaires par Travolta, donc honnête petit film avec les canyons. Moi j'aime bien parce que c'est assez décérébré et assez pitch sur un ticket de métro.
Ah oui non mais c'est le film du dimanche soir ça.
Ah oui tout à fait oui.
Tranquille. Hein.
Avec combat de boxe et le combat George Foreman, Mohamed Ali en toile de fond qui fait un petit peu le fil rouge, hein, puisque voilà. Donc il enchaîne ensuite un film produit par Michael Douglas qui donne des coups des franches justement avec Volteface en 97, qui est considéré comme le film où il aura su développer les thématiques qui lui sont chères aux États-Unis, hein, malgré quelques lourdeurs et vraiment des scènes de gunfight assez décevantes par rapport à ce qu'il faisait à Hong Kong. Donc c'est l'occasion de retrouver John Travolta et son duel avec Nicolas Cage, et aussi certainement le film où il aura le plus développé les personnages féminins, puisqu'avant c'était tout le temps un casting masculin avec une nana au milieu pour dire oula,
qui est un peu soit elle est aveugle, soit elle se fait prendre en otage, soit
Oui, ou le quotient amoureux pour
souvent
dire.
Souvent, elle sert le thé.
Aussi, ouais. Et donc, il faut savoir que quand il avait commencé à Hollywood, il a sa pseudo-liberté a un peu augmenté, puisque Chasse à l'homme, on lui avait mis dans les pattes un monteur qui détestait les ralentis. Donc, voilà.
Il est mal tombé.
C'est cruel pour lui, le pauvre John. Et Volteface, il a pu, voilà, avec Michael Douglas qui a produit, qui a donné les coups des franches. Il enchaîne ensuite avec un film pas franchement plus fameux, qui est Mission Impossible 2 en 2000, véhicule la star pour Tom Cruise. Mais finalement, John Woo lui dit bon, voilà, éclate-toi dans ce que tu sais faire de mieux, tu fais de l'action. De toute façon, on va pas te demander de faire autre chose. Et puis finalement, il arrive à faire quelque chose de franchement bandant et jouissif avec cette poursuite en moto et avec des abus, des re-abus de ralenti de colombe, hein, puisque on va dire que John Woo a inventé pas mal de choses dans les gunfights. Alors hormis l'utilisation systématique d'une colombe ou de pigeons dans ses
qui
films,
qui ne se fait jamais tirer dessus.
Tout à fait, mais c'est la.
Des fois, il y a des plumes.
Oui, c'est la symbolique de la pureté, du sens de l'honneur et du code de l'éthique. de la paix aussi, parce qu'il y a toujours une scène dans une église aussi dans ses films, enfin souvent.
Hein. Ouais, ouais.
Il a aussi inventé le fameux Mexican Standoff. Alors c'est peut-être pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a popularisé. Voilà, donc c'est les gens statiques qui se braquent systématiquement avec un flingue. Hein, donc ça peut être à 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Hein, même dans les 3 royaumes, c'est avec des épées et des arcs. Hein, il a recyclé aussi dans le film d'époque. Il a inventé aussi les gens qui tirent avec le flingue de côté, hein, ou le Beretta dans chaque main. Aussi,
alors attention, c'est un truc à ne jamais faire à la maison, de tirer flingue sur le côté, parce que je peux vous dire que ça vous arrache le poignet.
Oui,
finalement c'est pas la peine de le dire, c'est bien, ça fait plein d'accidents stupides. C'est
voilà,
super.
Xavier l'a essayé chez lui, il doit refaire la cuisine. Enfin, la salle de bain en ce moment, surtout.
Connard.
Ensuite, il enchaîne 2 ans plus tard avec Windtalkers, film de guerre avec Christian Slater et Nicolas Cage avec le code Navarro, où ils doivent protéger un Indien Navarro qui est détenteur du code, qui n'a jamais été percé par les Japonais. Et s'il est pris, ils ont ordre de le tuer. Donc encore une symbolique sur la dualité, le gens qu'ils aiment et aussi qui doivent buter. Et il finit sa carrière hollywoodienne par, on va dire, un art de luxe, hein, paycheck avec le somptueux Ben Affleck et une
magnifique
et merveilleux, souvenez-vous, et avec une splendide Emma Thurman qui était sortie de chez Tarantino et qui s'est dit tiens, je tourne avec John Woo, Tarantino m'en a dit beaucoup de bien. un film à oublier, hein. Faut dire que John Woo a toujours refusé les doses de SF dans ses films, et là on sait pas pourquoi il a fait un film de SF. Bon, argent quand tu nous tiens, les impôts peut-être pour revenir à Hong Kong. Et il faut savoir aussi qu'il a fait autre chose, il a fait 2 téléfilms, Les Repentis en 96, inspiré de son film Once a Thief.
Ouais,
à
alors
Hong Kong.
En fait c'est le démarrage,
un pilote,
c'est le pilote de la série qui est interprété par Nick Lee et Ivan Sergei. Nick Lee c'est Krychek, hein, d'accord. Hein, et je me rappelle pas le nom de la nana, quoi. Et en fait, il est encore producteur après avec
Terence Chang
ou Victor Wong, il me semble, ouais. Un truc comme ça. Et donc il reste producteur sur la série qui a duré une saison, hein, Once a Thief, en fait, Les Repentis. Et je dois avouer que pour avoir vu la série de long en large et en travers,
ah ouais, quand même
plusieurs fois,
oui.
Il y a quand même le pilote est pas mauvais, hein, c'est du téléfilm de base et tout. On y sent un petit peu la patte de John Woo, sans plus, hein, c'est-à-dire on sent bien qu'il y a un passage à l'américanisme où volontairement il doit se brider. À mon avis, pour essayer.
On l'attendait, on regardait le prompteur, on l'attendait celle-là.
Oui, mais bon, c'est vraiment pour faire, je crois, un petit peu allégeance à son passage du Pacifique, hein, à travers le Pacifique.
C'est profil bas, les gars.
Profil bas, les gars. Regardez, je peux être un faiseur, je peux me plier un petit peu. Bon, on garde un petit peu la patte John Woo, bien sûr. Il y a plein d'éléments quand même qui sont ramenés de son background, hein, de ses films passés, mais ça reste très soft, hein, y a pas de problème. Mais par contre, y a certains épisodes dans la série qui sont vraiment pas piqués des hannetons, hein, qui ne sont pas réalisés par John Woo, mais sur lesquels il est producteur du début jusqu'à la fin, quoi. Et vraiment, c'est une série qui mérite d'être regardée, qui est nettement meilleure que le film Les Repentis, Once a Thief, hein, avec l'original, quoi.
Oui, oui.
Qu'il avait fait à Hong Kong. Là, ça n'a rien à voir. Le ton est un petit peu différent, quoi qu'il y a quand même pas mal d'humour et tout, mais l'humour, on va dire européen, américano-européen, quoi. Donc vachement plus compréhensible pour nous que l'espèce d'humour un petit peu
hongkongais, gras, cantonais,
caca, pipi, tout ce que tu veux. Enfin bon, ou déjà tu es un petit peu largué de temps en temps, hein. Mais bon, tu rigoles quand même de temps en temps, hein. Il faut dire que Once a Thief, c'était quand même un truc un petit peu particulier, hein, dans la carrière de John Woo.
Oui, oui, plus en des comédies, ouais. Et il a aussi fait le téléfilm Blackjack en 98 avec Dolph Lundgren. Enfin, moi, franchement, ouais. je le préfère au Repenti. Parce que vraiment là, c'est il utilise vraiment à cavalerie avec les trompettes, les gros artistes.
Là il se lâche. Dans celui-là, voilà. Il se lâche. Hein, ouais, c'est un téléfilm.
Ralenti, explosion, gunfight de partout, Dolph Lundgren au milieu qui a peur du blanc. Il a une phobie du blanc.
Voilà,
film,
c'est ça. C'est parce qu'il a été ébloui à un moment donné par un éclair de flingue dans un combat. Et puis bon, donc là il a vachement peur de la lumière et de tout ce qui est vachement blanc, quoi, de ce qui est éblouissant.
D'où
en
le
fait,
titre,
quoi.
Blackjack.
Voilà. Et c'est le film où on se rend compte aussi que Dolph Lundgren a un peu vieilli quand même. Hein. Il est un peu moins souple qu'avant.
Ah oui, il faut que je le revoie alors. Et il a aussi fait la pub Nike avec l'équipe du Brésil dans l'aéroport avec Cantona. Si vous vous souvenez bien.
Oui.
Voilà.
Et il a aussi.
Avec la balle qui vole de joueur en joueur.
Voilà, et qui atterrit sur la tête de Kanto. Qui
c'est la seule scène, t'as tous les joueurs qui jouent, sauf Kanto, avec sa tête involutaire. Toi, tu l'as entendu.
Et dernier truc auquel a collaboré John Woo, même si je pense qu'on en oublie quelques-uns, c'est le jeu Stranglehold sur Xbox 360, qui est la suite officieuse de Hardboiled, avec toujours le personnage de Tequila, John Woo, de John Fat.
John Woo Fat, oui, plutôt.
Et donc, en fait, dans le jeu, alors moi j'ai joué, j'ai pas trop compris comment on jouait, mais j'ai vu jouer, et quand on sait jouer, c'est pas mal. C'est que tu peux, à un moment donné, figer l'action. Alors, c'est un jeu de shoot, hein, et tu peux figer l'action et faire comme dans le film, c'est-à-dire que tu te déplaces au ralenti pour éviter les balles et tu canardes en vitesse réelle. C'est-à-dire que c'est pas mal.
T'as les points d'héroïsme, quoi.
C'est le gunfight héroïque.
Le système de points d'héroïsme, voilà. Justement, je sais plus dans quel jeu de rôle.
Et ce qui est pas mal, c'est que John Woo, dans ses gunfights, hormis le fait de prendre un flingue dans chaque main aussi, c'était une science du ralenti où il alternait des scènes en vitesse réelle et au ralenti pour, justement, c'est comme ça qu'il faisait le rythme avec son monteur David Wu. Et dans le jeu, justement, c'est un principe qui est pas mal. C'est tu figes l'action à ton gré, tu peux remettre en vitesse réelle et tout, et ça, c'est comme si tu faisais ton montage en réel. À chaque partie, donc tu fais les cuts toi-même, donc c'est pas mal comme truc. Alors justement, voilà ce qui nous amène à parler de son dernier film, donc qui s'appelle Les Trois Royaumes, qui est sorti mercredi. Et alors vous, si vous êtes à Toulouse, donc le Gaumont le diffuse en VO en centre-ville, ouais. À la Belge, donc c'est en VF, et l'UGC le diffuse aussi uniquement en VF, donc voilà, si vous voulez le voir en VO. Donc Les Trois Royaumes, qui s'appelle en original Red Cliff, donc Falaise Rouge, qui a été assez inexplicablement traduit par Les Trois Royaumes, bon, même si ça s'explique dans l'histoire, avec Tony Leung Chiu Wai, troisième collaboration entre les deux hommes, Takeshi Kaneshiro, donc c'est un Hongkongais qui est né au Japon, hein, ses parents sont moitié japonais, il y a un de ses deux parents qui est japonais, Zhang Fengyi et Chang Chen. Alors, le premier ministre. Là, j'ai pas noté la période. Par contre, c'est la dynastie des. Au début de la dynastie des Han, il me semble. C'est le bouquin. C'est inspiré d'un bouquin.
C'est justement l'unification de la Chine.
Oui, voilà. C'est.
Enfin, c'est quand il passe de 5 royaumes à un seul.
Voilà, c'est
long. Un empire.
Après, je sais pas la distance de période.
Je crois que c'est
C'est les Chines.
C'est en 600 ou en 700, ouais. Il me semble. Quoi. Mmh.
Enfin, en tout cas, c'est inspiré d'un roman assez célèbre en Chine qui date du 13e siècle. Et donc c'est le premier ministre Cao Cao, grand chef du royaume du Nord, qui persuade l'empereur de le laisser mener une guerre contre Liu Bei du royaume de l'Ouest. Ce dernier, accumulant les défaites depuis 10 ans malgré des excellents généraux, envoie son stratège Zhuge Liang obtenir une alliance avec l'inexpérimenté Su Kan, mais qui n'a jamais connu de défaite, lui, du royaume du Sud. Et celui-ci, en fait, comme il est assez inexpérimenté au combat, il va laisser son général suprême, Zhu Yu, diriger son armée et mettre en déroute la horde navale de Cao Cao et ses 800 000 soldats. La bataille se déroule devant la falaise rouge, où le vainqueur sera celui qui saura le mieux profiter des éléments naturels. Alors c'est un film de bataille où il y a des armées de figurants qui se foutent sur la tronche avec des... tout ce qui est tranchant, tout ce qui brûle, tout ce qui explose, voilà. Donc c'est pas pour rien si on met la BO de 300 derrière, hein, voilà, bien burné. Alors, le stratège est joué par Takeshi Kaneshiro, qu'on avait surtout vu aussi chez Wong Kar-wai, qui tenait l'un des rôles principaux chez Zhang Yimou pour Le Secret des Poignards Volants. Tony Leung Chiu Wai, on ne le présente plus, qui est surtout connu en Occident maintenant, après In the Mood for Love, Lost Caution, etc. Alors voilà. Alors c'est un film qui mise vachement sur la stratégie, en fait. Ça c'est pas mal. C'est une. C'est comme si vous aviez le gouffre de Helm du Seigneur des Anneaux étalé sur 2h30. Ça voilà. Avec juste des orques au lieu de y aller franco en bourrin. En fait, se mettait à réfléchir et disait tiens, le vent est dans cette direction. Ce serait bien qu'on en profite pour par rapport au backdraft. Enfin de flammes et tout. Il faut qu'on soit de tel côté par rapport aux flammes. Tiens, si on utilisait le trou là pour faire le truc. Alors voilà, c'est le film. Il utilise vachement la stratégie. C'est un peu comme un duel d'échecs où les deux chefs des deux armées sont aussi intelligents l'un que l'autre, sauf qu'il y en a un qui qui va connaître mieux le terrain que l'autre, et voilà, justement, ça va lui permettre de gagner. Donc on a un peu en background un peu quelques intrigues aussi avec la splendide femme du roi qui est incarnée par Tony Leung, hein, le chef des armées des alliés. Ensuite, bon, ben John Woo, il fait toujours ses thématiques habituelles, hein, c'est primauté à la loyauté, à la fraternité, la dualité avec les deux personnes qui ne se connaissent pas et qui vont apprendre à se connaître à travers des petits jeux ou des petites activités. Là, en l'occurrence, c'est sur la musique, puisque les deux ont l'oreille assez fine, et il y a certaines scènes qui sont pas mal où ils échangent des informations ou des positions par rapport à la bataille qui va venir, justement à travers le son et sans se parler. Donc ça, c'est typique du John Woo, avec des petits inserts de regard au ralenti ou ah oui mais on s'est compris nanana, pas mal. Donc l'amitié virile, il a aussi mis pas mal de, pour les généraux principaux, il a mis des personnages assez cartoonesques, hein, avec un gros, avec les sourcils en pointe et tout. Bon, monté comme ça, ça aurait pu donner un truc, un amalgame à la Soyark, c'est-à-dire du sérieux avec du rigolo, puis on repart du sérieux après. Là, c'est vraiment bien, où c'est le sérieux, c'est t'as des bastons qui sont pas trop chorégraphiés à mort, mais qui sont suffisamment originales pour te faire passer la pilule quand même. Et le cartoon n'est pas trop cartoonesque, puisque c'est quand même un film qui a coûté pas mal de sous, donc ça se veut aussi à l'export. Il faut pas qu'ils en fassent trop au niveau cantonné.
Attention, c'est aussi un film de propagande. Hein.
De Chine populaire, oui, qui a été tourné en Chine continentale. Donc le film aussi, bah, tu sens que John Woo il réutilise aussi quelques petites recettes à travers les genres qu'il a explorés aux États-Unis avec les Windtalkers. Tu à un moment donné, tu vois vraiment, t'as l'impression d'assister à un débarquement version Chine avec des costumes, hein, puisque c'est vraiment filmé comme ça. Vous verrez, on dirait le soldat Ryan mix avec Fort Alamo. Et justement, le côté stratégique du film avait vachement fait penser au film Alexandre d'Oliver Stone, où je sais pas si quelqu'un l'a vu ici. Bon, on laisse JB le soin de s'installer, c'est ceux qui l'ont vu, où justement on voit à travers la poussière l'armée macédonienne qui est en train de faire des stratégies, et là il reprend à peu près la même chose jusqu'à utiliser le fameux oiseau, donc ici la colombe, qui surplombe les deux armées en disant voilà, on va vous faire un topo de l'armée à travers un plan séquence où on suit au très près l'oiseau. Donc ça, c'est pas mal.
Ça a déjà été utilisé dans Alexandre.
C'est ce que je disais il y a 15 secondes. Ouais,
ouais, pardon.
On m'était fasciné par JB, on comprend.
Non, je régis, c'est tout.
Alors, après, bon, on pourrait dire, pour ceux qui connaissent pas trop John Woo, c'était quand même un personnage, enfin, une personne qui avait surtout œuvré dans le gunfight, et qui, soudainement, se serait mis au film, au costume, avec, voilà, de grande ampleur. Bon. Zhang Yimou l'avait fait avant avec ses films qui avaient surtout été faits avec Gong Li, un petit comité. Il s'était essayé aussi au film en costume avec le courant d'air. Vous savez, les nanas qui mettent trois plombes à tourner 10 fois sur elles-mêmes avec les manches qui traînent par terre, qui font avec les cheveux ralentis, voilà. Ben là, pas
histoire
du tout.
De fantôme chinois.
Ah non, c'est ouais, ça c'est bien côté, bon, c'est, je pense plutôt à Hiro ou des trucs un peu froids là, avec où t'as les
esthétisant
ouais, où ils sont tous avec des câbles, ouais, et puis tu vois qu'ils sont avec des câbles, ils sont suspendus au-dessus de l'eau avec juste la goutte qui arrive parfaitement au centre de l'image, où il y a rien qui dépasse, où les figurants on dirait des robots, voilà. Ben là chez John Woo, c'est pas du tout ça, c'est-à-dire que les figurants, même s'ils sont parfaitement coordonnés, ben tu sens qu'il y a un cœur derrière, tu sens qu'il y a de la poussière, c'est sale. Même les gens, à un moment donné, tu vois, les putains de chorégraphies, ben, c'est quand même, tu sens qu'il y a un mec qui vibre derrière, c'est pas fait par des robots, quoi. Donc c'est, même si ça n'enlève rien au talent de Zhang Yimou, hein, bien sûr, mais c'est vrai que à côté de John Woo, bon, tu sens que c'est pas fait qu'avec la tête.
On voit tout de suite ta préférence.
Hein. Oui. Alors on va, ben ça tombe bien. Est-ce que tu l'as vu, toi, finalement?
Non.
Bon,
je préférais te laisser l'honneur.
Merci beaucoup, JB.
Avec grand plaisir.
Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Je sais que tu t'es privé, que tu as préféré pseudo chroniquer Coco à la place. D'ailleurs,
qu'on t'apprenne à chroniquer une bouse, puisque je te rappelle que Thomas, la semaine prochaine, va quand même parler de Dragon Ball Evolution.
Ah, c'est toi qui as perdu le pari.
Non, c'est pas un pari. Mais
c'est pas un pari. Non, c'est pas un pari. Il fait ça proprement, JB. Voilà.
Mais tu sais quoi,
t'as voulu faire le pari que je ferais une chronique. Bah oui, mais j'ai fait ça au boulot, hein. Entre deux clients comme je pouvais.
Mais tu sais que chroniquer la bouse est un art. Oui. Parce que faire chroniquer Coco comme tu l'as fait en parlant d'autre chose, ça ne se fait pas, monsieur.
C'est du travail de salgouin.
C'est vrai. C'était du flagrant délit. J'en suis tout à fait coupable.
Bon, de toute façon, tu réécouteras l'émission, mais on a déjà chambré Télérama. Voilà. Ils ont dit que John Woo était un spécialiste du film de Kung Fu.
C'est dommage, j'ai un article à vous envoyer via le net là, sur Télérama.
Non, mais ça ne joue pas. Ah. Je te rappelle qu'on fait une émission de radio.
Aussi. Mais vous parlez de Télérama, je rétorque.
Non. Mais si, ça, si. Là, tu parles de communication interne, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc, Thomas.
On conclut sur Les Trois Royaumes. Donc, c'est un excellent film de John Woo. Un John Woo surprenant aussi, parce que peut-être qu'on n'a pas vu ces films hongkongais où il faisait du film d'époque arts martiaux. Mais franchement, là, c'est vraiment du top. Il pose même le vice jusqu'à, justement, on en parlait tout à l'heure, à réutiliser les Mexican stand-off avec des sabres, avec un arc.
Alors, oui, j'ai une question. Est-ce que tu es totalement objectif sur le sujet, connaissant ton engouement pour ce réalisateur-là?
Non, il a été.
Surtout période Hong Kong.
Tu réécouteras, Thomas. JB. Tu réécouteras justement ce qu'il a fait.
Oui, parce que même les fans.
Parce que là, il en parle depuis 25 minutes, mine de rien, et je vais devoir placer le top sonore.
Oui, on a parlé de Paycheck, de Broken Arrow et de Chasse à l'Homme.
J'en ai libre.
Parce que là, même si t'as de la bonne volonté, c'est dur quand même. Voilà. Bon, eh ben voilà, les Trois Royaumes, allez-y. Les Trois Royaumes, allez-y. C'est pas du tout un film en poulet avec des costumes.
Quoi, il n'y a pas de poulet ?
Non, il n'y a pas d'ampoule non plus.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc c'est. Vous voyez Trois de Wolfgang Petersen. Ouais. Eh ben, je serai à la place de Wolfgang Petersen. Je me dirais, bon, ok, je vais arrêter le cinéma. Parce que tu vois des plans où il y a le chef adverse qui arrive avec ses 100 000 bateaux ou je sais plus combien et que tu as la même scène dans Trois et que dans Trois, tu rigoles. Bah là, tu vois que c'est faisable. Donc, Les Trois Royaumes de John Woo avec Tony Leung Chow et Takeshi Kaneshiro qui est sorti il y a 3 jours. Vous pouvez encore aller le voir, c'est tout frais.
Petite interruption musicale avec Tom Veck, A Little World in Your Ears. Pardon, du.
Non, moi je m'étais laissé dire qu'il y avait deux versions. La version occidentale qui dure 2 heures, presque 3 heures.
Ouais.
Et une version chinoise qui elle dure 4 heures.
Qui est 4 heures et qui a été divisée en deux. Et donc en Chine, ça sort en Red Cliff partie 1 et partie 2.
D'accord.
Mais qu'on retrouvera peut-être en Director's Cut éventuellement sur un DVD.
Ah oui, ce serait bien.
Ouais. Sinon, ils vont faire de multiples versions DVD. Et puis voilà. Ouais. Hein? Lucas voilà, Style.
Quand il sortira, de toute façon, ce sera le Blu-ray pour tout le monde.
Blade Runner.
Voilà. Petite interruption musicale pendant qu'on explique à JB ce qui s'est passé pendant 1 heure.
Ah oui, je veux bien.
Tom Beck, A Little World in Your Ear, justement. We'll be right back.
A Little World in Your Ear, extrait de l'album We Have Sound, où il était dans un registre vraiment différent de ce qu'il faisait auparavant. Le supplément week-end, émission numéro 194. Il est 13h01 et du sport.
Ah merde, déjà.
En poignée, la zapette sacrée.
Alors, pas de poisson d'avril, mercredi prochain.
1er avril. Oh,
c'est pas le match retour. Si, c'est le match retour oui. Également. Hein. Bon, ok, mais ça, c'est.
France-Lituanie.
Voilà. Mais c'est également le démarrage d'une nouvelle chaîne sur CanalSat, sur Numéricable, sur je sais pas quoi. Qui est pas vraiment une nouvelle chaîne, mais la nouvelle appellation d'une chaîne déjà existante, qui va changer de nom, donc. Mais
Paris
qui va intégrer. Qui va intégrer des programmes un petit peu différents.
NRJ 13.
Pas du tout.
Non, mais il faut trouver là.
Direct 9.
Alors, il faut savoir que.
Comédie drôle.
W10.
Non, alors je vais vous donner des indices.
Ciné, cinéma, sport.
Je vais vous donner des indices. Il faut savoir que là, on est plus dans une phase de récession au niveau des chaînes. Avec TF1 qui largue des programmes en veux-tu et voilà, en voilà.
Non mais tu
avec
tu,
France t'entends... 2 qui tu fait t'en... également de la réduction de la compression de personnel et de programmes.
Et ITV qui va abandonner l'une de ses séries phares et en Angleterre.
Ouais,
hein. Mes petites sœurs, elles étaient là, elles disaient non, ils vont abandonner Coronation Street et tout.
Ah ouais.
Coronation Street.
Coronation Street, tu peux pas connaître.
Ne
tu
t'en fais pas.
L'anglais.
Ne t'en fais pas. Ça, ça repassera ailleurs. Non, alors que justement pour le lancement de cette chaîne réservée, enfin réservée, chaîne pour, on va dire, les adolescents,
TG Senior,
No Life,
pré-ado, adolescent, on a pu voir des spots de pub sur un nombre assez incalculable de chaînes qui sont pas forcément des chaînes spécialisées sur des chaînes plus généralistes. On a pu voir des putains de spots là, genre à fond les manettes, le spot d'une minute et tout, très long et tout, ça veut dire qu'il y a du pognon. Eh bien non, vous regardez pas assez la télé, on dirait. Ouais. Il s'agit de Disney XD.
Ah oui.
XD.
C'est XGTX. C'est un smiley.
Alors
voilà, exactement.
Il fait pas que ça. Hein.
Ils font pas que ça, mais l'idée c'est plus de. En fait, c'est une chaîne qui est GTX a déjà été abandonnée depuis un bail aux États-Unis et Disney XD sert surtout pour la diffusion de dessins animés japonais.
Pas que.
Aux États-Unis, j'ai dit.
Alors aux États-Unis, ça a été lancé en février. Ça fait qu'un mois, quoi. Et donc la France sera le second pays à importer ce nouveau projet Disney, donc hein, c'est un remplacement de Jetix comme tu l'as dit. Alors ce qui est mis en avant surtout dans la pub hein, qu'on peut voir un petit peu partout, ce sont les séries inédites dont le fer de lance sera Aaron Stone, un jeune garçon.
C'est Sharon Stone.
Aaron Stone, un jeune garçon qui à travers un jeu de rôle a la possibilité de rentrer dans le jeu de rôle pour justement pouvoir dégommer des méchants et tout quoi en se servant de la personnalité de son avatar dans le jeu.
Donjons et Dragons.
Voilà. Pour les gosses. On aura également Zeke and Luther, une série plus skate. XD va miser surtout sur les sports de Jones, tu vois quoi, le skate, le roller, des trucs comme ça quoi, tu vois.
Le bong, le vol à la tire, la tournante.
Voilà. Tout à fait.
C'est Xavier qui l'a dit. Hein.
Le binge drinking.
Mais ça m'a échappé. Mais c'est une suggestion que je fais.
Mais bien sûr, messieurs de la CSA, vous savez qui troller.
Alors, du côté des séries, des animés qu'on connaît déjà, hein, qui passent sur Jetix et tout, bien sûr, Power Rangers. Alors, il va y avoir la nouvelle saison, la saison Jungle Fury.
Tes enfants n'ont toujours pas le droit de la regarder, tellement c'est nul.
Si, t'en entends quoi. Mais bon.
C'est pour leur donner le goût à la qualité.
Pokémon, ouais, non, parce que ça passe après 8h, donc à 8h ils sont en ligne de toute façon, quoi, tu vois. Donc c'est ça le truc. Hein. Pokémon Battle dimensions. Ça, c'est la nouvelle saison. C'est la 11e saison inédite. Attrapez également. Galactic Pokémon. Football, Sonic X, Team Galaxy, Totally Spies, Puka, bien sûr. Hein, là, il n'y a pas photo de toute façon. Et d'ailleurs, une nouvelle série. Une nouvelle série des producteurs de Puka hein, qui s'appelle Kid vs. Cat.
Hein, ah, c'est on est une amatrice. Hein.
Non, mais ça a l'air d'être assez rigolo. Hein, c'est les déboires d'un petit garçon dont le chat de la grande sœur, eh bien, fait que des conneries et tout. Donc ça raconte un petit peu les aventures entre les deux là. Bon, miaou, ça peut être très rigolo, miaou, surtout quand miaou, tu sais que c'est produit miaou, par ceux qui ont fait Puka. Alors là déjà, on va y jeter un petit.
Donc déjà, tu dis pas kawaii puisque Wii Studio est sud-coréen.
Ouais, non, mais bon, ça vaut le coup. Hein.
Ouais, là, c'est kawaii quand même.
Je me suis rematé l'épisode de Bollywood de Puka, ça vaut son pesant de cacahuètes.
Il a placé par Bollywood contre, aujourd'hui.
Ah bah ouais.
Non,
la fabrication de la sauce au curry dans Puka, ça vaut son pesant.
Oui.
Je vous dis que ça. Alors, on a également sorti un petit peu du monde de Disney. Disney achète un petit peu aussi à droite à gauche hein, pour remplir ses programmes. Eh bien, deux adaptations de comics, dont des inédits, un inédit Iron Man's Animated Series, qui a été adapté et fabriqué par un studio français, et dont on pourra voir quelques épisodes les premiers jours de lancement, c'est-à-dire tout au début d'avril, là, dans quelques jours, mais dont on ne pourra voir la série que en 2010, c'est-à-dire la saison prochaine.
Ah ouais.
Il y aura également Spectaculaire.
Ça veut dire que c'est en cours de prod, hein.
Ouais, mais ça veut dire que bon,
ça sent le Spider-Man.
Spider-Man, tout à fait. Spectacular Spider-Man également au programme. Donc sur Disney XD qui commence. Donc je le rappelle, à partir du 1er avril, c'est mercredi prochain.
Pas à poil, JB, putain, tu te rhabilles, tu me remets ce slip qui est en train de faire tourner là.
Yes! Qui c'est qui veut un extra?
D'ailleurs, puisqu'on parlait de nos lives, attention, va falloir s'accrocher sérieusement, puisque cette semaine c'est le 1er avril, ça veut dire que tous les soirs, toutes les émissions vont être présentées par d'autres animateurs, Tokyo Café inclus. Il y avait eu 4 versions de Tokyo Café la dernière fois, donc là, je m'inquiète. En général, c'est assez fort ce qu'ils font.
Alors du côté des séries, pas de nouvelles séries, par contre des saisons inédites et pas mal en fait, car Canal+ vous propose dans sa case traditionnelle du jeudi soir séries bien sûr, et là bien ce sera les nouvelles Desperate Housewives saison 5, donc à partir de 20h45 jeudi prochain sur Canal+, suivi de la saison 3 de Weeds avec Marilyn Parker, donc là également ça peut être assez rigolo à partir de 22h10. Sinon vendredi prochain à partir de 20h40, M6 vous propose la saison 4 de Bones, une saison 4 qui a l'air prometteuse hein, parce que déjà dans la saison 3 on les voit se rouler un palo d'enfer qui tue, Emily Deschalin et David Boreanaz. Ouais, donc ça promet. Et c'est une nouvelle saison qui démarre avec deux épisodes qui étaient tournés à Londres, avec un double épisode donc tourné à Londres, qui ouvre cette saison 4 et qui sera donc visible à partir de vendredi prochain sur M6. Un peu plus confidentiel, et d'ailleurs l'horaire de programmation est tout à fait confidentiel pour une série qui aurait peut-être mérité un meilleur développement, il faut dire. C'est un petit sujet. Il s'agit d'une équipe de football américain d'Odessa au Texas. C'est Friday Night Lights. On se rappelle de la saison 1. On voit cette équipe faite de bras cassés, de mecs qui sont un petit peu à la ramasse et tout, qui préfèrent se bourrer la gueule et tirer des gonzesses le samedi soir plutôt que d'être à l'entraînement et tout pour le match du dimanche. Mais encadré par une poignée de fer et surtout par une certaine psychologie de l'être humain, le nouvel entraîneur de cette équipe, interprété par Kyle Chandler, eh bien, arrive à faire que cette équipe, eh bien, domine et gagne le championnat. On en est là donc au départ de la deuxième saison qui n'aura que 15 épisodes à la place des 22, grève des scénaristes oblige, mais il faut se rappeler que la première saison n'avait que 12 épisodes parce que c'était une demi-saison, telle que les connaissent les Américains. Alors, au départ, c'est un long métrage qui avait été tourné en 2004 par Peter Berg et qui était inspiré du roman de Buzz Bissinger, hein, à propos de cette équipe de foot, donc une petite équipe de foot, de pas de quartier, mais une petite ville, hein, Odessa au Texas, bah, personne ne connaît, on connaît plus le Odessa de l'autre côté, hein, bien entendu. Tu vois, il n'y a pas que Paris au Texas.
Oui, il y a aussi l'Odessa, banlieue de New York. Hein.
Ouais, ouais, un petit quartier, enfin, qui ne s'appelle pas vraiment comme ça, mais qui a été surnommé Little ouais. Odessa, quoi, de toute façon. Buzz Bissinger, donc celui qui a écrit le roman Friday Night Lights, est également scénariste sur quelques épisodes de NYPD Blue, entre autres. Bon, ben, ça classe un petit
ça,
peu.
Ah oui, déjà, il a le niveau, quoi.
Hein. Par contre, on va reprocher à NRJ 12 déjà d'avoir été frileuse lors de la diffusion de la première saison.
Non, hein, attends. NRJ 12, de toute façon, ils nous ont passé Le Prisonnier amputé. Ils ont coupé en plein milieu. Généralement, c'est recadré. Il y a un traitement de son qui est absolument déplorable. C'est absolument inaudible. Quand ils ont passé L.I., la série là de. L.I. Crime inaudible, mais vraiment le son était saturé avec des effets derrière.
Boomtown, tu veux dire?
Oui, entre autres. Je ne regarde plus cette chaîne parce que sur les séries c'est impossible.
Ok, et quand tu apprendras que la nouvelle saison donc démarre demain à 9h30 du matin.
Ah oui, bon d'accord, ok. Non mais ceci dit, il y a une multidiff sur NRJ 12.
Ouais, mais enfin bon, il va falloir se... J'ai regardé, mais enfin pour se la regarder le soir, ça va être très difficile quoi. Très très difficile.
Ou alors... vive les disques durs.
Ou alors, oui, vive les disques durs, ou alors le réveil pour se réveiller à 4h du mat quoi. Tu as un petit peu les horaires, bon. Ouais. Sinon, il faut savoir que dans la continuité, eh bien TF1 diffuse... également à un horaire inhabituel et un peu chiant, il faut le dire, hein, parce que 22h50, 23h, 23h15, bah, en pleine semaine, c'est pas évident à suivre. C'est la saison 2 de Life. Life avec Damian Lewis, Sarah Chahi, Adam Arkin, Robin Weigert. Donc à partir de mercredi prochain 23h45 après le match non 22h55 pardon, dernier épisode de la saison 1, l'étau se resserre, hein, le 11e, puis bien premier épisode de la saison 2, mise à mal, nouvelle saison qui fait 22 épisodes. La première saison ne faisait que 11 épisodes, demi-saison américaine oblige. Life, donc c'est sur TF1 à partir de mercredi prochain 22h55 23h45, hein, pour la saison 2. On l'a toujours. Get him. On l'a toujours en vue et surtout, hein, c'est la bonne surprise de toute façon. Depuis plusieurs semaines, c'est Berlin Brigade Criminelle sur Arte, avec encore une fois un horaire différent d'hier soir, par exemple. Et ça commence de plus en plus tard. La semaine prochaine, ce sera à partir de 23h. Hier, on a eu droit à 22h40. Là, maintenant, c'est 23h pour Berlin Brigade Criminelle. Ouais, ça fait chaud, quoi. Bon, même
enfin,
si c'est vendredi.
Enfin, d'un autre côté aussi, c'est pas un truc qui est grand public, hein.
Pas trop, non, pas trop.
Voilà, sachant qu'Arte est dispensé de la signalétique du CSA, donc c'est bien qu'ils essaient de suivre un peu les règles françaises.
Ouais, non, mais bon, ils le font quand même, quoi. Hein, à savoir, et ils préviennent quand même à l'avance, quoi. Généralement, quoi. Ok. Alors, dans l'épisode d'hier soir, I'm Endless Vegas, on remarque que dans ce commissariat, ça commence à vraiment péter les plombs. Le commissaire Anders, commissaire principal, interprété par Gert Schubert, qui sort de l'enterrement de sa fille, eh bien, est plus ou moins en disponibilité. Ça, il reste à la maison, il s'occupe un petit peu de ranger, de s'occuper, tout ça, et il pète les plombs carrément, quoi. C'est-à-dire, bon, bah, ok, il tombe en larmes. Enfin, bon, c'est gros moment de pathos et tout, à fond les manettes et tout. Mais la vie dans le commissariat continue, les enquêtes continuent. On délaisse un petit peu le fil rouge, hein, de ce Berlin Brigade Criminelle. Cette histoire de fric volé par un des inspecteurs de la brigade, hein, volé à un dealer. Mais là, l'étau se resserre un petit peu quand même, quoi. Il va falloir attendre les épisodes suivants pour voir quelle est la suite de l'histoire. Mais ce qui est assez marrant, quoi, c'est que suite aux petites incartades justement du commissaire Ners, qui a voulu se faire justice plus ou moins lui-même, hein, suite à la mort de sa fille, eh bien un flic de la des Boeufs Carottes a été dépêché dans la dans le commissariat qui commence à être bordélique, que c'est pas permis, comme le commissaire principal est absent, c'est la nana qui est généralement au terminal,
celle qui est au secrétariat, quoi.
Au standard et tout, qui dispatche les appels, qui dispatche les trucs et tout, qui prend la place du commissaire et
oula,
tout.
Ça commence à puer, là.
C'est le flic de la police des polices qui essaye de s'immiscer, mais sans trop, quoi, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas le mec arrogant et tout, il cherche plutôt à se fondre dans le moule, on va dire, et à exploiter un petit peu les quelques fuites volontaires ou involontaires des autres pour se forger une idée, quoi, après ce qui est arrivé, quoi. Et c'est assez rigolo parce que bon, ben, on se rend compte que bon, déjà on le voit dans la séquence de l'enterrement, quoi, on le voit également prêter main forte, c'est-à-dire pour soulever le cercueil et trimballer le cercueil de la fille du commissaire Anders, alors qu'il est chargé d'enquêter sur lui, tu vois. Alors bon, c'est assez rigolo, mais on le voit également, bah, qu'il commence à prêter main forte aux inspecteurs pour que le train-train du commissariat, ben, continue à rouler tranquille, pépère. Mais par contre, bon, ben, c'est toujours aussi bordélique, des affaires tout venantes relativement trash et tout, deux nanas qui veulent tuer un mec et tout, parce que bon, ben, ils rentrent bourrés quand ils rentrent de déplacement du boulot et tout, donc ils attendent qu'ils soient complètement à la masse, écroulé et tout, quoi, pour essayer de tartiner la gueule à coups de pelle et de lampe de poche. Enfin, c'est tout n'importe quoi, mais bon, c'est assez trash quand même, quoi, il faut dire. Et il y a toujours cette espèce d'ambiance de tournage qui, moi, fait beaucoup penser, hein, de la manière dont c'est tourné, caméra à l'épaule, un petit peu tremblotante comme ça, images un peu légèrement granuleuses comme ça, les décors qui sont vraiment très pauvres, très on n'est pas dans les commissariats nickel et tout de RIS, de Brigade Navarro, ou même de New York Police Judiciaire, où bon, bah, c'est relativement clair, on voit tout est relativement bien rangé. Là, c'est le bordel, les murs sont crades et tout, les chiottes demandent si ça n'a pas été refait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Enfin bon, c'est assez incroyable de ce côté-là, mais ça fonctionne très très bien, la mayonnaise vraiment prend très bien. Il y a également, on se rend compte que contrairement à d'autres séries policières où ben, on a une équipe de flics qui est chapeautée bien entendu par un supérieur, il y a plus ou moins une entente tacite entre les gens pour travailler bien ensemble et tout, voire plus si affinité et tout. Alors que là, bon, ben, la plupart des inspecteurs sont obligés de côtoyer les uns avec les autres parce qu'ils sont au boulot à côté. C'est comme vous quand vous êtes au boulot et tout, et puis bon, vous êtes quand même obligé de vous côtoyer des connards et tout à longueur de journée parce que vous êtes au boulot, quoi. Parce que sinon, bah, vous seriez pas avec eux, quoi. Ça, c'est clair. Et là, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que, bon, bah, ok, ils sont pas là pour faire mumuse ensemble, ils sont là pour bosser. Et bon, bah, il y a des conflits, mais vraiment très très larvés pour l'instant, mais qui vont, à mon avis, bientôt péter, quoi, entre les différents membres du commissariat, qu'ils soient masculins ou féminins, parce qu'en plus il y a des espèces d'interpénétration.
Oh non.
Hasardeuse, on va dire, entre les différents membres et tout. Il y a vraiment la nana qui est là, qui essaye de sauter sur tout ce qui bouge pratiquement, avec une visée toute particulière vers le beau brun d'origine turque et tout, qui vient de se marier, mais ça c'est con et tout. Mais elle a quand même essayé de l'entreprendre dans les chiottes juste avant la cérémonie de mariage, tu vois. Et bon, bah, qui se rattrape sur un autre. Enfin bon, bref, une autre nana qui la vieille fliquette de l'amende qui prend la direction du commissariat en l'absence du commissaire Enders, qui elle est lesbienne donc, mais qui s'est fait larguer par sa nana parce qu'elle n'osait pas avouer à ses autres collègues qu'elle était homosexuelle. Alors elle présente sa nana comme étant sa colocataire, tu vois. Enfin bon, ça la fout mal, l'autre elle se casse. Enfin bon, c'est vraiment très très bien foutu, il y a une bonne ambiance.
Oui, enfin, bonne vraiment manière de dire, quoi.
Non, mais vraiment ça se laisse regarder et tout. Puis bon, t'arrives à la fin de l'épisode, tu dis merde, c'est déjà terminé, quoi. Bon bah ok, il va falloir attendre le prochain, donc vendredi prochain, Berlin Brigade Criminelle, le numéro 5, qui s'appelle Vertrauen, que j'arrive difficilement à traduire, mais enfin bon, Trau, ça veut dire triste, quoi, c'est-à-dire rendre quelque chose qui est rendu triste, quoi. Enfin bon, ça veut bien dire que bon, ça va pas être plus joyeux que ça ne l'était déjà. C'est sur Arte donc à partir de 23h vendredi prochain. Alors, je me suis fadé quand même les deux.
Non, c'est moi qui fade la musique.
Deux épisodes de Action Spéciale Douane dont je vous ai parlé semaine dernière.
Hier sur France 2.
Absolument, absolument. Et pourquoi les deux? J'aurais pu en faire qu'un et puis dire ouais, putain, c'est de la merde, je me casse. Eh ben non.
Du sport, il l'a accroché.
J'ai accroché légèrement. Ça reste quand même du français avec.
oui, ça sonne creux.
avec, on va dire, quelques approximations. Bon, un truc français, on va dire. Par contre, bonne interprétation hein, de Marc Duret, Nadège Bossondiane, Boris Terral et Claire Perrault, entre autres. Tiens, encore une histoire d'amitié homosexuelle féminine. Oh, mais ça deviendrait la norme.
C'est pas trop tôt. Ça fait de l'audience.
Enfin là, faut dire que sa copine se fait dégommer dès le début du premier épisode. Donc bon, ok, hein, il lui reste que le souvenir de cette photo déchirée. enfin bon... Faut quand même dire ce qui est, c'est quand même relativement bien foutu. Les scénaristes sont un petit peu cassés la nénette, quoi, pour nous sortir des petites choses un petit peu sympathiques. Alors, c'est de plus en plus la norme, si ce n'est que ce n'est la norme maintenant dans toutes les séries un petit peu policières, un petit peu d'aventure, on va dire. Hein. C'est-à-dire, il y a toujours une action, une intrigue qui va être d'un épisode, hein, avec un début, un milieu et une fin qui correspondent à l'épisode, mais également une autre histoire qui va être fil rouge et qui va se délier tout au long de la saison, ou du moins dans une grande partie de la saison. C'est également le cas d'Action Spéciale Douane, où en balayant un petit peu le tout venant, on va dire, eh bien, il y a une enquête qui est menée sur un immense trafic de crystal meth. Tu sais ce que c'est la crystal meth, toi? Bah ouais, mais c'est de la méthamphétamine, quoi.
Ah ouais,
tu vois,
un truc qui te fait planer.
Planer, pas tellement, non. c'est plutôt un petit
c'est
peu
heavy, quoi. Tu vois, c'est pas soft. Hein.
Voilà, c'est pas soft. Et donc, ils vont essayer de retrouver qui est le principal méchant. Fournisseur, le grand méchant et tout, quoi. Qui, bien sûr, fait partie des édiles, qui a pignon sur rue. Bon, ça, c'est le truc un petit peu rebattu. Voir comment ils vont s'en débrouiller au fur et à mesure de la saison, bah, ça peut être intéressant, justement. Mais par contre, c'est relativement bien foutu. On insiste un petit peu sur les côtés un petit peu trash, quoi. C'est-à-dire que bon ben c'est pas la série du vendredi soir un petit peu gentillette, on va dire, à la manière de PJ, où on ne rentrait pas trop dans le vif du sujet. Là bon ben, ok, hein, le cadavre
du sujet.
Dans le vif du sujet, ouais. Là les cadavres avec les mains coupées, ok, tu vois bien les phalanges qu'il y en a plus, enfin bon, des petites choses comme ça, le mec qui s'est fait marteler la gueule à coups de marteau, bon ben, ok.
Joey Pesci était un guest d'un des épisodes.
Ben ouais, bien sûr. Ça veut dire que bon bah ils deviennent adultes un petit peu, quoi, on va dire, les scénaristes de la télé française, quoi. Ils se disent ok, bah, nous aussi on peut y aller franco de temps en temps, appuyer là où ça fait mal, et il en ressort que c'est pas vraiment désagréable. Action spéciale Douane, donc la première mini-série ne fait que 6 épisodes. A priori, ça a l'air de marcher, donc ça devrait être reconduit. 2 épisodes donc à venir vendredi prochain dans la case horaire traditionnelle du vendredi soir, c'est-à-dire polar de France 2. 20h35 pour le premier épisode, 4 consciences, le numéro 3, et le second s'appelle Jeu mortel. C'est le numéro 4 de cette série qui en compte 6. Action spéciale Douane, donc sur France 2 à partir de vendredi prochain, 20h35.
Juste pour dire à nos chers auditeurs que du sport, en fait, 4 télé côte à côte chez lui, et c'est pour ça qu'il arrive à voir tout en même temps. C'est comme ça qu'il vous parle de d'Herbeliner machin chose, et de vous parler de Douane.
Non, il en a une seule, mais en fait sa télé a une fonction qui s'appelle le split screen. Il a 4 écrans dedans.
Et il fait comment pour écouter les deux dialogues en même temps?
Il écoute pas.
On m'appelle Ozymandias.
Fait quoi?
Pas mal.
Allez, une dernière pour la route. Alors c'est un crossover qu'on avait déjà vu, mais je tiens à souligner la qualité quand même. Là on voit un petit peu la différence, quoi, entre par exemple Action Spéciale Douane, qui est vraiment pas pourri du tout, non vraiment, hein, je pourrais dire pas mal de choses désagréables, mais bon, on va plutôt laisser la série un petit peu se développer Et vraiment là, j'étais quand même assez bien interloqué par cette série. Hein. Franchement quoi, franchement, elle mérite quand même le coup d'œil. C'est un crossover là dont je vais vous parler qui a lieu ce soir après le match de foot sur TF1. Et traditionnellement le samedi soir sur TF1, c'est quoi? C'est New York
Unité Spéciale.
Et c'est l'occasion de revoir cet excellent crossover. Parce que bon, à l'intérieur de cette double histoire, quoi, c'est-à-dire qui va démarrer dans New York Unité Spéciale, mais dont la conclusion n'aura lieu que dans New York Police Judiciaire. Ah, c'est ça le crossover. Bon, c'est facile.
Hein,
parce
que
Unité Spéciale est un spin-off de New York Police Judiciaire, New York District si vous préférez, hein, parce que Police Judiciaire ça n'existe pas aux États-Unis, non, ça n'existe pas. La police fait la police et la justice fait la justice. D'ailleurs, ils le disent au début de chaque épisode.
Il y a une séparation entre.
Alors, il s'agit de l'épisode La Manipulatrice dans New York Unité Spéciale, un épisode de la saison 7 avec Julian Sands entre autres. On va dire que c'est pas lui hein, le manipulateur, mais il a un rôle très important à jouer. Et ça se suit donc dans.
Il n'a jamais joué le rôle d'un gentil, Julian Sands.
Si me semble qu'il a été réutilisé justement dans une des franchises de New York Police, ouais. Où justement il joue le rôle d'un faux coupable, c'est-à-dire qu'on croit que c'est lui au début parce qu'il a la gueule de l'emploi, mais en fait non, c'est pas lui.
Pourtant, quand on le voit, c'est un blond assez faible, gentil.
Ouais.
Mais tous ses films. Enfin, je sais pas au point de vue des films, mais tous ces films, c'est toujours le méchant du film.
Ah ouais, bah,
c'est un blond, cheveux longs. Ouais, quand tu vois une fois, tu sais qui c'est.
Un visage assez fin, hein. Comme ça.
Une partie des gens, on sait jamais comment ils s'appellent et qu'on en a toujours.
Mais
vu.
C'est le fils de. Comment il s'appelle son prénom là? Sands, merde. C'est le fils de. Enfin, en tout cas.
D'accord.
si, l'actrice est vachement connue, quoi.
Vous le saurez la semaine prochaine.
Alors, dans New York Police Judiciaire, donc, là, il s'agit de la saison 16. Donc, on retrouve Mariska Hargitay, c'est-à-dire l'inspecteur Benson, qui œuvre d'habitude dans l'unité spéciale. Mais elle fait une apparition dans New York Police Judiciaire parce qu'au début de cet épisode, eh bien, on retrouve sa plaque de police qu'elle avait perdue dans sa carte de crédit, me semble-t-il, ou ses papiers, sur le cadavre, sur un cadavre, donc. Et donc elle est chargée de venir s'expliquer sur ce truc-là auprès de Denis Farina et de l'autre dont je me souviens jamais le nom, le Black là, donc Jesse Green, voilà quoi. Et il y a également la présence de Linda Carter.
Wonder Woman.
Wonder Woman. Bon, là, elle a pris
des
années et des kilos, mais on se rendra compte que bon, bah, elle est plus aussi gentille que dans Wonder Woman. Plus du tout, mais du tout,
ah,
du
c'est
tout.
Une salope.
Parce
maintenant.
Que là, c'est vraiment la dernière des enfoirés dans cet épisode. Et, faut voir l'épisode de toute façon pour comprendre. Mais là, c'est vraiment la dernière des enfoirés. Hein. Parce que bon, il y a un twist final quoi dans cet épisode qui est vraiment excellent, vraiment excellent. On sait que dans New York Police Judiciaire, généralement, ça ronronne plus ou moins. C'est toujours la même rythmique. Les mêmes trucs là, ça change justement effet dû au crossover donc entre New York Unité Spéciale et New York Police Judiciaire. 22h50 ce soir donc pour La Manipulatrice 1 et 23h35 pour La Manipulatrice 2 sur TF1 ce soir à partir de 22h50.
Eh oui, ça tombe. Hey. Tu es sûr que tu veux faire la partie cinéma?
Ouais, vite fait là. Bon, parce qu'il y a que des trucs des
rigolo.
Alors, c'est la crise.
Ce soir, spécial Fury avec à 20h50 sur
Nick
AB1
Fury.
Alien Fury.
Oh, bah,
de Rob Hayden.
Pousse quand même.
Avec Gina et Dondre Whitfield et à 20h40 sur
Virgin 17,
Nick Fury.
Ah oui.
De Rod Hardy avec David Hasselhoff, Sandra Hess, Lisa Rinna, ouais. Que du beau monde.
Jump in my car.
Bah oui, en 97.
Ah ouais.
En 97. Bah oui, c'est le fameux Nick Fury.
Et diffusé au moins une cinquantaine de fois sur les chaînes.
Au moins. Non, mais pour une fois, pour une semaine, je me suis dit je vais le mettre quoi. Il était déjà diffusé la semaine dernière, je me suis
ça
dit cette semaine.
Virgin 17,
ce soir, à 20h40.
Ce qui est un truc de bien, c'est que Nick Fury aura été incarné par David Hasselhoff et Samuel Jackson.
Oui. Cherchez le lien.
Il est ténu. Ténu.
Demain.
Demain. Ange passe, une colombe, comme dirait John Woo.
Demain, spécial film avec des couilles. 20h35, NT1, Time Cop de Peter Iams avec JCVD, Mia Sara, Ron Silver, et Gloria Ruben, Jeannie oui. Boulet.
Gloria Ruben, c'est dans Boulet IA.
C'est Jeannie Boulet.
Je suis Urgence.
Dans Urgence.
D'accord.
Ensuite, à 20h40, sur Cinéma Frisson, Réplicante, JCVD, 2 pour le prix d'un.
Répliquant.
D'habitude, il y a 2 JCVD dans les films.
Et ben, là, il y en a 2, là.
Là, donc ça fait
3. Ça fait 3.
Mais là, il y en a 2, là.
T'es pas aware.
Dans le Ringolam.
Non, il y en a 4. Parce que dans Time Cop, en fait, il y a le Jean-Claude Van Damme du futur. Et le, non, le Jean-Claude Van Damme du futur et le Jean-Claude Van Damme du passé. Donc, il y a 4 Van Damme pour 2 films.
Ah ouais. Là. Top Moumout. Alors, avec surtout un excellent Michael Rooker dans Réplicant. Enfin, oui, il faut dire que bien. Le film, il est très bien. Moi, je trouve ce Ringolam vraiment bien, quoi.
Avis non partagé.
JCBD, pas mauvais, mauvais. Et il y a également Catherine Dent, qu'on retrouve dans le rôle d'un flic récurrent dans le commissariat de Vic Mackey dans The Shield. C'est la blonde.
Oui. D'accord. Okay. Je connais pas The Shield.
Bon, bah tant
pis. Et par contre, dans Réplicant, il y a une scène où il y a Van Damme qui rencontre une nana et sa première fois qu'il a de l'effet et puis il dit oh, j'ai taché mon pantalon. Véridique.
Alors sinon, on a également demain soir The Substitute de Robert Mandel avec Tom Béranger, Diane Lenora.
Ouais.
Ah oui, le premier. Alors,
que fait Tom Béranger aujourd'hui?
Il tourne le 14.
Il y a également Ernie Hudson, le patron de la prison d'Oz, et Glenn Plummer, qui justement, comme Julian Sands, a l'habitude de jouer des rôles de méchants. Quand tu vas avoir un méchant vraiment avec la bonne tronche et tout, de méchant et tout, genre un petit peu un télo comme ça, genre mec qui planifie tout et tout, tu prends Julian Sands ou alors tu prends Glenn Plummer, qui se ressemble un peu physiquement d'ailleurs. Alors bon, il y a pas trop de...
Mick Myers.
Glenn Plummer qui est le fils de...
Christopher,
bien sûr, la mélodie du bonheur, The Sound of Music.
Oui, mais on est trop jeunes, nous.
Ah ouais, mais
bah, plus récemment, il a tourné dans le Spike Lee.
Je parle pas du sport là. Je parle aux trois autres, hein, aux deux autres. Vous avez vu la mélodie du bonheur?
Non.
Voilà, Xavier, me dis pas que tu l'as vu, ça serait te mentir, nous mentir.
Ça s'appelle vexer son producteur, et dans ce cas-là, t'auras la voix de merde. Voilà.
Alors demain on a également ah ouais demain on a également à 21h hein,
et on découvre ça, le programme. Ah ouais.
Non parce que je les ai fait dans le désordre, tu vois. J'ai mis les deux JCBD ensemble, quoi.
Oui.
Alors on a également...
Non. Non, tu m'as vexé.
En fait, c'est juste pour dire que du sport, il y a quand même du contenu de Stevie avec ses... Ah ouais.
Alors, sur la chaîne Polar, demain soir, 21h, Narc, le premier Joe Carnahan, qui est excellent, avec Jason Patrick, Ray Liotta, Chi McBride, qu'on a vu, c'est le proviseur dans Boston Public, et c'est également l'inspecteur dans Pushing Daisies.
La série.
Bien sûr.
Trop courte.
On a également demain soir, ah ouais, carrément les deux pour le prix d'un, à 20h40 sur la chaîne Action, Opération Delta Force, ouais, avec Jeff Fahey et encore Ernie Hudson. Alors celui-là, c'est un Fürstenberg et il est bien. Et par contre, celui qui suit Opération Delta Force, c'est le Opération Delta Force 2. Donc, qui est juste après, à 22h10. Mais celui-là, il est du Aussie Wine et puis bon, franchement,
je n'aurai qu'une expression.
Il est temps pour lui que cela cesse.
Il y en a 4 Delta Force, c'est ça?
Ouais, il me semble, ouais. Mais là, tu vois le 1, c'est bon. Après, tu te dis bon.
Déjà, rien que la jaquette, tu fais oups.
Alors, lundi.
On t'en a vendu plein. Hein.
Lundi, il y a un très bon film sur Cinéma Star à 20h40. Foxy Brown, le film de Jack Hill avec Pam Grier. Aïe. Je ne te dis que ça. Également Antonio Fargas. Ben ouais, il y avait une vie avant Starsky et Hutch. Hein, Antonio Fargas en faisait partie. Donc, mais il a gardé toujours, son côté un peu maniéré. Hein, on va dire que voilà. Bon, d'accord. Peter Brown.
Celui qui aura compris cette ellipse.
C'est Huggy les bons tuyaux.
Oui, mais celui qui aura compris justement l'ellipse du sport.
Il s'assume, quoi. Tu vois, il assume. Sans problème, quoi. Et pourtant, pour les Blacks, c'était vachement plus difficile, quoi, tu vois. Donc, Foxy Brown, c'est donc lundi sur Cinéma Star à 20h40. À 21h, lundi également sur CinéFX, K2000, La Nouvelle Arme. Ouais, ça, c'est le téléfilm qui est sorti en 91.
C'est là où il y a Devon Miles qui meurt.
Voilà. AJ.
Putain, on dit pas de spoiler! Merde!
AJ Levy avec David Hasselhoff. Et en fait, c'est K2000, mais un peu dans le futur, quoi. Voilà, quoi. Mais si, c'est pas nul. Ouais, c'est K2000 dans le futur.
Ouais, mais Devon, il meurt, c'est nul.
Ouais, bon, bah tant pis. Enfin,
K2000, c'est un peu nul quand même.
Mardi, sur RTL9 à 22h20. Barbwire. Ouais. Avec Pamela Anderson. Ouais.
La meilleure adaptation de film.
Ouais. Jack Nosworthy. Ouais.
C'est bien, on reste dans la thématique après David Hasselhoff. Pamela Anderson.
Steve Railsback. Ouais. Tout ça, donc Barbwire.
Je crois que je vais passer chez toi d'ici là pour t'enlever les piles de ta zapette là. On va te laisser sur
mes téléphone. Enfants le font tous les jours au moins 10 fois.
T'es mauvais la JB, tu t'es fait doubler.
Alors mardi c'est Western, que Western avec sur France 3 L'homme des hautes plaines de Clint Eastwood avec ouais. Bernard Blum, Mitch Ryan, enfin bon voilà quoi.
Hein, que du bon.
Ok. Sur comédie mardi à 20h40, Cours après moi shérif de Al Needham. Ça, ouais. Ça vaut son pesant de cacahuètes quand
c'est
même.
C'est bien.
C'est bien quoi. C'est Burt Reynolds, Sally Field et tout. C'est assez rigolo quoi. Non, faut le regarder quoi. C'est pas un film pour réfléchir. Tu laisses tomber. Tu prends ton cerveau, tu le laisses à la cuisine. C'est bon. Tu te mets dans la télé puis tu regardes Cours après moi, shérif. Ça vaut le coup.
Tu m'as sorti un film où il fallait réfléchir depuis le début, depuis tout à l'heure.
Parce ah bah que oui.
Entre répliquant, ouais. Barboyeur. Bref, prochain.
Le prochain, alors Western, donc mardi à 20h40, ouais. Ciné-cinéma classique de Western, le premier, Les Aventuriers du désert, c'est un des premiers John Sturges en 49 ouais. Avec Randolph Scott et Lorraine et William Bishop, ou qui vont chercher un magot mais qui est enfoui au fin fond de la vallée de la mort, c'est-à-dire en plein désert, donc ça va être coton quoi pour le récupérer. Et il n'y a pas que le désert en plus. À 22h, La Brigade du Texas. Alors celui-là, il est pas terrible, hein. Réalisé et interprété par Kirk Douglas en 75 avec Bruce Dern, Beau Quince et James Stacy entre autres. C'est pas terrible quoi, on va dire, hein, une histoire de c'est un mec qui braque une banque et tout, et qui après prend en otage le shérif quoi. Enfin bon, mais c'est pas terrible quoi, franchement quoi. Hein, bon voilà. Sinon sur Orange Ciné Choc, soirée Sabata mardi prochain avec à 20h40 Sabata, le premier de Gianfranco Parolini qui a signé les autres également, c'est-à-dire le Adios Sabata à 22h30 et le Retour de Sabata à 0h20. Donc trois Sabata pour le prix d'un, c'est sur Orange Ciné Choc mardi prochain à partir de 20h40. Mercredi un petit peu de film culte avec à 22h35 un film que tu le regardes, que tu dis putain, je regarde un film de cul et tout, et puis pourtant je suis RSS, c'est cool quoi.
Emmanuel,
Caligula.
Mais non, un vrai film de cul.
L'Empire des Sens.
Voilà, l'Empire des Sens quoi.
Ah oui.
Pas des espèces de trucs érotiques où tu vois pas grand chose. Quoique, il y a une version hard de Caligula qui est. Où il y a eu des inserts qui ont été rajoutés. Hein, qui sont vraiment très qui sont hard.
Doublure beat.
Voilà. Non, c'est-à-dire ça avait été tourné.
C'était vraiment Malcolm McDowell.
Non, c'était pas Malcolm McDowell hein, c'est
qui jouait dans Caligula.
Oui, c'est lui qui joue dans Caligula.
Mais c'est pas lui dont on voit la bite.
Mais il y a des scènes qui porno donc qui ont été rajoutées et qui avaient été tournées pour ce film, mais le producteur originel de Caligula, voulant que le film sorte au cinéma, avait dit non, vous me dégagez ces merdes-là, on les foutra sur une vidéo, sur une cassette VHS quand la VHS sortira. Et donc au cinéma, on a pu voir la version de Caligula, ok, qui est déjà bien heavy et tout, mais où tu ne vois pas de sexe en érection et d'autres choses comme ça. Mais il y a l'autre version donc, qui est la version, on va dire, avec des inserts porno placés au bon moment quand il y a les scènes d'orgie et tout ça, quoi. Donc, et qui là est vraiment explicite, quoi, sans problème. Alors, l'Empire des Sens de Nagisao Oshima, c'est sur Paris Première, mercredi prochain à 22h35, avec Eiku Matsuda, Tatsuya Fuji et tous les autres. Enfin, c'est vraiment très très bien. Il y a pas que les scènes de cul dans ce film. Hein, il y a encore toute une espèce de, il y a surtout l'histoire du le cérémonial de la bouffe et du thé et tout ça et tout, quoi, qui est vachement bien expliqué et tout, quoi, et qui fait partie justement, quoi, de cette. Quête des sens. Si ça vous intéresse pas trop, sur Sci-Fi à 20h45, un petit Carpenter, c'est le Carpenter de la semaine. Et c'est pas un des plus connus, mais néanmoins vachement bien. C'est Prince des Ténèbres.
Oh là
c'est
là
bien
là.
Avec bien, Donald ça. Pleasance, Jameson Parker, Alice Cooper même. Oui. C'est excellent. Que dire de plus? Il y a que la fin qui pêche un petit peu à mon avis, mais enfin ouais, bon ça.
La fin en suspens, tu sais pas trop ce qui.
Ouais.
Moi je trouve qu'au contraire, elle va très bien justement.
est plutôt original.
Et, surtout non, qu'il fait... a... et en plus, il avait fait ce film juste.
Ça fait un peu film pas terminé. C'est-à-dire, genre, oui. Putain, il manque d'idées vers la fin. J'ai pas de truc pour vraiment que ça pète à fond les manettes. Ouais, et puis merde. Ça fait un peu ça, quoi. Mais c'est quand même vachement bien, quoi.
Mais c'est pas son premier coup d'essai où il y a une fin ouverte. Enfin, la fin ouverte, là, elle est quand même assez ouverte. Mais il finit toujours par un petit truc avec les snakes où il éteint la civilisation. Ou t'as la fin de Jack Burton aussi avec le bon Soto dans son camion.
Le fog où il laisse sous-entendre qu'il peut avoir un brouillard n'importe où dans le monde.
Et ouais, et puis il y a The Thing aussi, tu sais pas qui a le virus, il se trouve à deux dans la station. Mais Prince des Ténèbres, il a fait juste après Jack Burton parce qu'il avait été échaudé par l'échec monstrueux. Et il était retourné au film à petit budget, justement, il avait repris l'acteur qui joue Wong, Dennis Chung, ou Dennis Wen, Dennis je sais plus combien, Dennis je sais pas quoi.
C'était l'échec de Jack Burton, c'est ça?
Pardon, non, c'était le petit chinois qui fait des arts martiaux à la fin et qui essaie de couper la bouteille en deux.
Alors donc ça c'est Prince des Ténèbres, c'est sur Syfy mercredi prochain à 20h45. Jeudi dans le désordre, tout et n'importe quoi avec à 22h30 sur Direct 8 Patton. Alors là Patton, méga Franklin G. Schaffner en 70. George C. Scott, un Oscar, et Patton en a
et
obtenu
un
7.
Long discours devant un superbe drapeau américain.
Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible.
Magnifique.
Carl Malden, Stephen Young et tout. Enfin bon, vraiment, ça pète à fond les manettes. Hein. C'est du film de guerre, du vrai, du pur, du dur. Bon, ok, politiquement assez incorrect, hein, on va dire, parce que bon, les discours sont bien réac, quoi, sans problème. Hein. Mais bon, ça replace un petit peu dans le contexte. Dans un genre tout à fait différent... On parlait de film de boule avant, eh bien 22h20 sur comédie Captain Orgasmo de Trey Parker.
Doublure beat vient de ce film. Et en VO c'est Coxstunt.
Coxstunt, yeah.
JB l'a pas vu.
Non, moi j'ai vu en VF et je m'étais régalé.
Et non, mais en VO ça vaut le coup et tout.
Même les copines sont mortes de rire en le regardant.
Ouais, ouais, non, mais c'est avec la participation de vrais acteurs et actrices du X. Hein, le film de Trey Parker, donc l'un des deux hein, de South Park, dans lequel il joue le rôle principal, le rôle d'un type qui arrive, qui vient d'une famille mormone et tout, quoi, très religieuse et tout, et qui va se marier avec sa petite copine et qui doit se dégoter un boulot et tout, et il trouve un boulot dans une boîte qui fabrique des films de cul, donc dans la San Fernando Valley, quoi, et il va être l'acteur principal, donc. Le nouveau John Holmes du cinéma porno. Mais bon, c'est vachement bien traité et tout, ça vaut le coup, c'est une bonne rigolade, Captain Orgasmo, c'est sur comédie à 22h20 jeudi prochain. Sinon on a encore un JCVD jeudi prochain à 20h40 sur Ciné Cinéma Frisson, Légionnaire de Peter MacDonald.
Aïe.
Avec, et ça je savais pas,
ça
parce
pique,
que
ça pique.
JCBD, j'ai pas eu tous ces films, dont celui-là. Et il y a quand même Adewale, Akinouye, Akbagé. Ah ouais.
Monsieur Echo.
Monsieur Echo.
Et ADBC de Oz.
ADBC dans Oz, voilà. Jeudi prochain également, ça c'est pas loin d'être un chef-d'œuvre sur TCM, La Balade Sauvage de Terrence Malick avec Martin Sheen et Sissi Spacek, ainsi que Warren Oates. De toute façon, un film dans lequel Warren Oates, c'est un bon film déjà au départ, tu vois. Après, il manque pas grand chose pour que ça vire au shader, mais bon, n'est pas Peckinpah qui veut, quoi, tu vois, c'est ça aussi le problème, quoi. Vendredi, on termine avec à 20h35 sur RTL9, œil pour œil de Steve Carver avec Chuck Norris, David Carradine, Barbara Carrera et Robert Beltran. Chakotay dans Star Trek, je sais plus lequel. Sur Energy 12 Hard Times 2 et avec Burt Reynolds, mais là il est déjà vieux, en 98. Il y a également Charles Durning, Robert Loggia, Mia Sara et Billy Dee Williams. Ah ouais, là c'est le film d'action pur et dur, hein, avec des couilles. À 20h40 vendredi prochain sur TF6, Direct Action de Sidney G. Fury, on en parlait, de Dolph Lundgren et Polly Shannon. Sur la chaîne Action à 21h, rediffusion, enfin là ça avait été diffusé par d'autres chaînes et là c'est Action qui s'y colle, de l'excellent téléfilm qui s'appelle Alamo de James Lee Hancock de 2004 avec Dennis Quaid, Billy Bob Thornton, Jason Patric et il y a encore toute une tapée, quoi. Il y a au moins une quinzaine d'acteurs et d'actrices dans ce film qui sont bien connus, hein, mais c'est le film qui est assez fidèle, on va dire, qui est moins, on va dire, romanesque que le film Alamo qui était sorti avec, réalisé je crois d'ailleurs par John Wayne, et avec John Wayne dedans, hein, où il jouait le rôle de David Crockett et tout. Enfin bon, c'était tout et n'importe quoi. On rassemblait les histoires, le mythe de la conquête de l'Ouest et tout, le Texas délivré des Mexicains et tout ça. Là, c'est vraiment la reconstitution assez historique, assez fidèle, hein, de cette bataille d'Alamo, hein, qui a vu, ben justement, un nombre très ténu de Texans. Bon, la légende raconte qu'ils étaient 200.
Ouais, mais en fait, Fort Alamo est pas si grand que ça.
Non, mais bon, ok, quoi, mais bon, là.
Mais c'est la bataille mythique.
Voilà, c'est la bataille mythique, un petit peu à l'instar des trois royaumes, tu vois, ou alors c'est la plus petite armée qui va dégommer la grande armée, tout ça.
Celle dont Chuck Norris se réfère pour dire le Texas doit être indépendant, enfin.
Ouais, mais Chuck Norris n'est pas dans Alamo, quoi, tu vois.
Ça, bon, heureusement.
C'est peut-être pas dommage, quoi, tout à fait.
Heureusement, sinon ils auraient gagné.
C'est un très bon téléfilm. C'est vraiment un très bon téléfilm. Hein. Donc c'est sur Action vendredi prochain à partir de 21h, Alamo. Et on termine avec. Ah bah oui, on l'avait oublié. On l'avait oublié. Il n'avait pas encore été cité.
Dickoff, Steven Seagal.
Ah voilà, avec pas un de ses plus mauvais, hein, sur Orange Ciné Choc vendredi prochain à 21h. L'ombre blanche de James Gray en 96 avec Keenan Ivory Wayans entre autres, hein, qui crève à un moment donné d'ailleurs dans le film, quoi. Allez, on y va à fond les manettes. Mais il est pas désagréable, on va dire, hein, pour un Steven Seagal un peu essoufflé déjà, d'accord, je vous l'accorde, mais qui reste encore dans la limite du raisonnable. L'ombre blanche, c'est vendredi prochain sur Orange Cinéchoc à partir de 21h. Bref.
Et on y va!
Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route?
Oui, nous avons ouvert le lecteur CD avec un stylo. On a eu des tiramisu, mais sans le misu, donc des tiramis. Du sergent costaud, du mouzou carrière, du gunfight avec des fléchettes, du dérapage avec des tournantes. Du sport a encore réussi à placer le mot Bollywood. On a eu du smiley à la télé, un JB en slip. On a eu du sport qui a encore réussi à placer Berlin Brigade criminelle.
Ah, oui.
On a eu des interpénétrations dans les chiottes. On a réussi à placer trois fois le mot beat. Une fois, on a aussi dit couille et porno, c'est bien. On a eu des furies, plein de JCVD en double, du Chuck Norris, du Steven Seagal même essoufflé, et une voix de syndicaliste en haut-parleur pour JB.
Et d'ailleurs, on reprendra JCVD prochainement. Et tu avais oublié de citer la table absolument dégueulasse, heureusement que JB peut y poser son cul.
Bon, mais il s'assied pas sur la table, JB. Hein.
Oui, oui, attention.
Par les 4 millions d'euros évadés en Patagonie, c'est quoi ce sujet? Ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, le dossier actuel sur les mangas avec une émission intégralement dédiée à Dragon Ball, avec la chronique du film Evolution. Merci Thomas. Et aussi une interview exclusive de Akira Toriyama sur Dragon Ball Kai, le reboot de la franchise diffusé à partir du 9 avril au Japon. Et peut-être ceux qui pensent du film.
On se retrouve même heure, même fréquence. Non. On se retrouve même fréquence, mais à l'heure d'été, puisque cette nuit on change d'heure, n'oubliez pas. Voilà, on zappe. N'oubliez pas Evangelion 1.0, You Are Not Alone en version originale sous-titrée avec un gros événement. Ce sera vendredi prochain au Mega CGR Blagnac avec l'organisation du Toulouse Game Show. Normalement, on devrait passer, ne serait-ce que pour voir l'ambiance et puis
voir le film en grand aussi.
Ce serait tellement mieux. Merci JB, merci Thomas. Je vous cède la place avec du sport. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bye bye et tchuss.
Salut. Et si je te pince ici?
la boue.
C'est pas vrai, si ils ont